Comment il danse Trump déjà? C'est quand il était en campagne, il faisait des trucs comme ça, mais je l'ai pas. Attends, on va essayer de se. Je vais aller voir en vrai. Petit F5 là. C'est pas F5 là? Petit F5 là, non, il est plein. Non? Ah, j'ai tout cassé. Merde. Merde, j'ai un truc. Ah, c'est F11, c'est F11. Les poings vers l'avant et l'arrière, au bas sans bouger les coudes. Comme ça? Je l'ai pas. Attends, danse Trump. En alterné? Comme ça? Je l'ai pas. En alternant droite-gauche? Je pense pas que c'est ça. Allez, un petit plaisir du matin. Allez. Désolé, c'est pour vous. Tintin. On dirait du. C'est YMCA, ouais, ça. Alors. Il y a trois mouvements importants. Donc il y a comme ça. Et il y a de temps en temps une petite variante. Ne faites pas ça chez vous, hein, c'est fait par des danseurs professionnels. Et à un moment, tu pointes quelqu'un dans la foule. Ok. Ok, je l'ai. Autre variante, à un moment, il fait une seule main. Oui, on se plaint beaucoup. C'est vrai que bon, on a des soucis, nous, en France aussi. Mais ça pourrait être pire. On pourrait avoir Donald Trump comme président. Ah. Et comment se faire cette revue de presse? Ah. On rigole, mais il va. Mais quand il va taper cette danse au gouvernement, bah, moi qui fais. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Qui aurait cru qu'un jour Trump me mette de bonne humeur? Mais oui, Onine, c'est le pari de cette chaîne, hein, malgré le côté extrêmement anxiogène des contenus que nous abordons, l'info, tout ça, ben, on arrive quand même à essayer de passer un bon moment malgré tout. Hein. On va pas en rajouter des caisses. Hein. Vous avez compris le principe, la ligne éditoriale. Ok, hein, vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Hein. Vous êtes tous autant que vous êtes. Les Nodaska, les Fefe Go, les Willy Fish, les Etienne LB, les Natekila, les MMG7F, les Tom Tom San, les Armance, les Erandil, des êtres doués d'une intelligence rare. Oui, alors est-ce que vous avez besoin, quand vous en rajoute des caisses hein, sur le côté anxiogène de l'info? Non, vous savez que voilà, on vit dans une époque de turpitude et de trumpitude. Voilà. Et donc. Bah, je vous raconte les faits, mais c'est pas la peine non plus d'en faire des caisses, quoi. Comme sur certaines chaînes d'info. Ah. Quand tu parlais de mettre des interludes musicales pendant le sommaire, je pensais pas à ça. Moi non plus. Vous savez, cette chaîne est très improvisée, quoi. C'est un peu, c'est très artisanal. Hein. Sinon, artistique, on est presque dans une démarche artistique finalement. Salut Sarah. Ah, je suis content de vous retrouver par contre. Vous allez bien? Ça va la vie? Voilà. J'ai une jolie actu. Je peux vous en montrer un petit peu d'ailleurs le hop, les grandes lignes. Ici avec le sommeil. Le magnifique. Ah, est-ce que vous avez parlé des screens des messages de Macron? Ah, depuis quand Trump monte les SMS que Macron lui envoie. Ouais, ça c'est un peu anecdotique. Ça confirme que le mec n'a pas de règles, quoi. En matière diplomatique, tu fais pas tellement ça. C'est ce que j'ai appelé ce matin, oui, le premier titre, vous voyez, c'est un article du Monde sur un an de Trump 2, hein, de son deuxième mandat, un an seulement, ressenti 30, l'impunité au pouvoir. C'est quand tu fais fi des règles. Salut Val, Rolliste, merci pour ton message. À quand Samuel Etienne dans Danse avec les stars? Jamais, Bang Bang, jamais! Un bon gros sommaire ce matin, ouais, Kezak, vraiment il y a une bonne actu là. Un jour il faudra nous raconter par contre. Un jour, Sugar, peut-être. Quid du crousty poulet? Je non, alors moi je suis en sèche là. Hein. Moi, on est le 21 janvier, je suis en sèche pour cet été. Parce que vu le changement de métabolisme avec l'âge, vu la flemmite aiguë, hein, qui fait que maintenant, au bout d'une demi-heure de sport, je suis crevé. Et que entre aller à la salle, faire du tapis ou streamer, je préfère streamer. Et ben, il est pas trop tôt pour commencer un 21 janvier, la sèche pour le summer body. Donc cet été, tout dragon devant, dehors, pas devant, enfin si, devant, derrière, il y en a partout là maintenant. Tout dragon dehors sur les plages, voilà, avec la démarche chaloupée et féline, à la Aldo Machone. Eh bien. Il faudra porter haut l'étendard du summer body. Et on commence maintenant. Donc non, 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 pas de poulet crusty, je sais pas quoi là. Hein? Voici, attends ça avec impatience. Faudrait qu'il me trouve déjà sur la plage parce que je suis pas le plus grand. Hein. Suis pas le plus grand. Stream à la salle. Alors la salle où je vais, je peux pas streamer. Hein. C'est impossible. Ouais. Poulie d'or, 10 kilos perdus en 2 mois. On a commencé mi-novembre ici. 10 kilos en 2 mois, alors là. 1m73, 72 kilos, sans faire de sport. Allez, regarde l'écho du bitume. Regarde l'écho du bitume, comment il se la raconte. Moi, pas de sèche. 1m73, 72 kilos sans faire de sport. Lol. Ok. Oui, bah il y a des gens comme ça. C'est des métabolismes. Mon amoureuse, elle fait pas de sport, elle mange n'importe quoi, et comme ça, voilà. Alors, est-ce que vous devez vous en vanter? Non? C'est la nature, ça? Avec le Bob. Ah oui, moi je suis Team Bob, moi, l'été. Oh, en parlant d'Hélène, d'ailleurs, elle a du mal avec ça. Moi je suis très Bob. J'adore les Bob. J'ai passé l'été dernier en Bob. Et puis j'en achète aux enfants aussi. On sort tous les trois. Vous me laissez celui-là, s'il vous plaît? Alors attends, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah mais non, mais Harlam, c'est un... Le message d'Harlam, il a été... Mais je pense que Harlam a voulu faire de l'humour parce que... Oui, c'est sur la vanne. Pardon Harlam, j'ai cru que tu étais un nouveau venu qui insultait, tu sais, les réseaux. Touche pas Harlam. Et excuse-moi. Et donc, oui, et donc je mets des bobs aux enfants et on sort en team bob. On est trois. Hélène, franchement, elle a du mal. Il y en a un qui a un bob banane. Et en fait, c'est toujours comment on se perçoit, comment on se voit, comment les autres nous voient. Donc moi, je me perçois avec mon bob en mode un peu badass, tu vois, rappeur quoi, tu vois, Cypress Hill quoi, tu vois, un peu mystérieux, le bob sur les yeux, tu vois. Mais qui est, tu vois? Et en fait, je pense que en vrai. Ouais, Sam Ghetto un peu. Et en vrai, je pense que tel que les gens me voient, c'est. C'est pas comme ça. Mon Bob, c'est. Tiens, un gars qui va à sa partie de pétanque. Ah, un gars qui n'a pas peur du grand tiraton. Le look, c'est secondaire pour lui. Voilà, tu vois. Donc, un petit Cypress Hill peut-être, puisque je vois que certains ont la ref là. Pop, pop, pop. Communauté de qualité. Oui, plus Patrick Chirac, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on s'écouterait de Cypress Hill? Ah, il y a des choses. Oh, bah, ça, obligé, ça. Hein. Ah, obligé, ça. Ah, oui, foudre dans la membrane, exactement. On va écouter Foudre dans la membrane, alias Insane in the Brain. Non, ça c'est une pub pour World of Warship.
Get crazy with this. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you...
Le son est pourri parce que j'ai fait des modifs pourris sur ma table de mixage hier. Ou le son est... J'ai un doute. Tapons n'importe quoi. Tapons un truc récent. Là, on est d'accord que le son était pourri, là. Attends. Parce qu'hier, j'ai bougé... Bon. Là, le son d'origine est un peu crado. Ouais. Attends, on va tenter autre chose. Donnez-moi un autre titre un peu sympa. Je sais pas, moi... tiens, un vieux... un Tupac. Un Tupac. Pas très récent, ça remarque. California Love, bien sûr, ouais. All Eyes on Me, ouais. Get Around, c'est quoi ça? Et j'ai un problème de son, moi. Non! From the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if... Ça aussi, c'est énorme. Attends, on se refait l'intro quand même. Donc, il n'y a pas de problème de son. Okay, c'était le son de Cypress Hill qui était un peu mauvais. Old school. Hey, hey. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Still Dre Day, AK, though I've grown a lot, can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block, ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off, how, my last album was The Chronic, they wanna know if he still got it, they say rap's changed, they wanna know how I feel about it, you ain't up on pace, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Bon, c'est pas non plus un... C'est pas karaoké là ce matin, mais voilà. Quand je mets un bob, l'été, dans ma tête, je suis ça. Et alors que je pense que c'est pas comme ça que les gens me voient, ni mon épouse, quoi. Donc bref, voilà. Cependant quoi, Diesel? Bon, vous allez bien, vous? En fait, j'ai pas une tête à chapeau. Je crois que je suis pas... À casquette, à la rigueur. Ouais. Style. Oh, oui, style. Cependant. Ah, mais bien sûr. La casquette, ça va en vrai. Mais moi, j'adorerais porter des chapeaux, tu vois. Des Panama, même des bérets, tu vois. Je suis fasciné. C'est beau, les chapeaux. Et donc, des bobs, mais ça me va pas trop, quoi. Ça me va pas trop, en vrai. Bon, très heureux de vous retrouver. Grosse forme ici. C'est vrai que je songe tout le temps à l'histoire d'après, le coup d'après, l'aventure d'après, le contenu d'après, l'aventure pro d'après. Surtout quand tout va bien, comme en ce moment, je suis très heureux dans ma vie d'aujourd'hui et notamment sur Twitch. Et justement, c'est dans ces moments-là, il faut s'interroger. Oh, bijou, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après quand à un moment ça marchera moins bien? Et quand tu te poses la question suffisamment tôt, finalement, ça ne marche jamais moins bien. Parce qu'en fait, tu es toujours en mouvement. Tu es toujours... Ça toute ma vie, à mon tout petit niveau, moi. Tu es en mouvement avant que ça bouge, quoi. Parfois, je fais durer le plaisir pour de mauvaises raisons. pour des raisons d'engagement ou pour faire plaisir aux gens, et c'est jamais bon ça. Et donc, et là j'ai peut-être des idées, des trucs. What do we do? Exactement. Ce que tu dis est beau comme du Jean-Claude Van Damme. Ah bah c'est lui qui m'a tout appris. Hein. C'est lui qui m'a tout appris.
Énergie.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
J'avais pas bien compris. Qui fête son anniversaire? Je vois qu'il y a un anniversaire dans le chat. Merci, oui, le pull est très cool. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire un petit feat avec les amis du Gorafi il n'y a pas longtemps et il m'a offert un mug, je ne sais pas où il est, et puis un très joli sweat aussi. Monsieur Biganon, 34 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et il est cool, hein. Il y a 233 ans, quelques minutes après, Louis Capet, alias Louis XIV, perdait la tête. Louis XIV, t'es sûr qu'on est... On n'est pas plutôt sur Louis XVI au niveau de la perte de la tête? Tu n'aurais pas fourché dans les petits bâtons et les V, les X? Je pense que tu as un interverti. Hein? Voilà, c'est croix, V, bâton. Et pas croix, bâton, V. On était parti sur une leçon d'histoire. Et ça a fourché. C'est dommage. Oui, comme on disait dans la rue à l'époque, à mort Louis Croix V bâton. Exactement. Tout à fait. Ça partait comme une leçon d'histoire. C'est waouh, je me régale, la communauté. Mais bon. Un petit pack de verglas. Bon, est-ce qu'on envoie de la force, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à Lille Andril, grosse crise de migraine depuis hier. Ça peut être un enfer, ça. J'ai fini à l'infirmerie du taf, j'attends mon rendez-vous en visio avec un médecin car je me sens pas ouf aujourd'hui, mais au moins ça me permet de regarder ce stream, donc tout n'est pas perdu. Ilondril, force. Oh, c'est trop mignon. Alors ça, Iron Mouse, la bouche de fer. Il y a la dame de fer, il y avait Gaston de fer il y a très longtemps, et il y a Iron Mouse avec nous qui écrit un message très sympa. Bonjour à tous, bonjour Samuel. Donc déjà quelqu'un qui dit bonjour, prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine. Hein, les impolis là. J'ai perdu le message du coup, je suis bête. Merde, j'ai perdu le message d'Aaron Mousse. Ah. Donc quelqu'un qui dit bonjour déjà. Cela fait déjà plusieurs mois que je suis ta revue de presse en podcast. Hein, et ça, on est très heureux du lancement de cette revue de presse. Il était temps, hein, 5 ans de revue de presse sur Twitch. J'ai mis 5 ans à la mettre en podcast et depuis septembre, elle est en podcast tous les jours à partir de 15-16 heures. Il y a plein de gens qui nous écoutent. J'ai donc décidé de franchir le pas et de créer un compte Twitch pour pouvoir réagir sur ton chat. Mesdames et messieurs, nous avons des gens qui viennent de l'univers du podcast qu'on appelle la Terre du Milieu également aussi et qui nous rejoignent hein, dans ces contrées mystérieuses, hostiles et sympathiques à la fois qui est l'univers de Twitch. Je dis bienvenue Iron Mouse. Iron Mouth. Mouth. Parce que Iron Mouse, ce serait la souris de fer. Bien sûr. Ok, je n'ai remercié aucun sub. Mélanie, nouveau média. Merci, Babylonia51. Merci, Lilandril. Merci. Et voilà. Et une des plus grandes streameuses du monde aussi. Hein? Quoi? De quoi? J'ai raté un truc? Quoi? Mais quand vous me voyez dans la rue, si vous voulez me dire des trucs sympas, Iron Mouse, c'est une gigastar de Twitch? C'est une énorme streameuse? Ah ouais! Ah, trop bien. Et Iron Mouse me dit c'est une ref à Thatcher en effet. On régale. Les modos. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Iron Mouse, le sympathique, le bien-aimé, le lumineux, le shiny, ai-je envie de dire, qui nous rejoint depuis l'univers du podcast, pourquoi cette personne qui vient d'arriver est marquée au fer rouge comme utilisateur suspect? Vous vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce qui se passe? Le gars vient d'arriver. Parce que... Quoi? 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 Attends. Attends, je rate des messages. Hein? T'inquiète, Iron, je regarde le truc. Ah. Ah bon? Pourtant, le message était trop cool en vrai. Parce que le compte est tout neuf. Et alors? Mais puisqu'il vient de l'univers du podcast, c'est normal, il a dit qu'il venait de créer son compte. Mais non, quoi? Mais ça veut dire quoi? Il était flag en contournement de ban, ça veut dire quoi? C'est quoi ce mystère encore? C'est quoi? C'était... On est dans les brumes de Baskerville? C'est ça? Encore une histoire! D'ailleurs, à propos de notre vie sur les réseaux, depuis hier soir, j'ai mis, après des échanges répétés avec mes amis streamers, streameuses. Merci, Shukar. Donc, notre ami pourra parler. Avec sa bouche de fer. Ok, très bien. Ah. Twitch a repéré son compte comme un contournement de ban et l'a restreint pour l'empêcher de parler sur le chat. Et nous, au contraire, on l'a autorisé. C'est la liberté d'expression sur cette chaîne. Ok, je valide. Vous êtes géniaux. Les modérateurs font un travail ici, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle. Les modos ici, demain, tu leur donnes du tissu, des aiguilles. Ils te font de la dentelle de Calais. Hein. Ça se vend à la haute couture. Hein. Je peux te dire que le jour où la haute couture française a un coup de mou, je leur envoie les modos, c'est reparti comme en 40. Hein. Non, c'est pas, 40, c'est peut-être pas la bonne expression, mais vous voyez, c'est incroyable. Hein. Oui, je disais nouveauté sur le réseau du Chétan, hein, qui est le nom officieux de ce réseau que les gens appellent X, ex-Twitter. Après de nombreux échanges avec notamment des amis streamers et streameuses, j'ai pris une grande décision hier soir. J'ai mis mon compte Twitter en privé, je crois. C'est-à-dire que il faut me follow depuis hier soir. Parce que bon, ça va maintenant. Aujourd'hui, sur X, tu mets « Bonjour, ça va les gars, vous avez vu, il fait beau ?»« Oui, comment tu peux dire ça ?» Et puis de toute façon, on t'a vu avec telle streameuse. Et puis, il y a 10 ans, regarde là, sur ton... Oui, il manquait une virgule clairement sur ce tweet. Bon, vous savez ce que c'est devenu de toute façon. Et donc, en fait... Et donc aujourd'hui, pour voir mes tweets, il faut m'avoir follow. Voilà. Donc ça devrait apaiser un peu, je pense, le truc. Parce que là, on n'est pas là pour cristalliser, on n'est pas là pour créer de la polarisation entre les gens, mais plutôt essayer de créer un espace où les gens peuvent discuter, quoi. Et donc du coup, je me dis que ça peut être un truc qui va apaiser le truc, quoi, comme ça. Parce que là, ces derniers temps, je n'osais même plus. Il y a Indicuche qui vient d'écrire sale gauchiste dans le chat. Mais putain, mais mets un kappa quand tu fais des vannes. Putain, mais tu. Après, ça se prend des headshots par les modos. Mais mets un kappa, imagine le modo, il est mal réveillé, il voit ça. Tu vois. Vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Et donc, ces derniers temps, j'osais même plus poster. Oh tiens, j'ai une surprise pour vous. J'osais même plus poster mes petits visuels de sample, les trucs tout chou, quoi. Parce que c'est marrant parce que pendant 2-3 heures, les gens étaient ouais, super, un nouveau sample, c'est génial, il y a machin qui arrive, on va se régaler. Voilà. Pendant 2-3 heures, puis à un moment, il y a un dingo qui voit le tweet. Voilà, tu sais pas qui c'est. Et puis, donc le tweet vit sa vie, puis à un moment, ça prend un certain temps parce que c'est pas toujours très rapide. Et à un moment, il y a un dingo qui voit ton tweet. Voilà. Et puis subitement, ils sont 30. Mais d'un coup, mais quels sont leurs réseaux? Mais ils se parlent par Discord, ils ont une boucle WhatsApp. Tu vois, c'est le truc vit sa vie. Bon, très bien. T'as 80%, 95% de messages sympas, tu vois. Et à un moment, t'as un gars qui arrive, hein, et qui t'accuse de je sais pas quel crime, hein, et subitement, ils sont 30. Et donc, quand tu vois les historiques des messages, tu vois par exemple, ok, message normal, message normal, message normal, ça dure des heures, message normal, message normal, message normal. Et puis à un moment, ça prend un certain temps, ça peut prendre 12 heures, ça peut prendre une douzaine d'heures. Et là, c'est fou le même type de truc. Très curieux. Donc pour éviter ce phénomène qui est un peu dommage et qui du coup limite la communication, puisque du coup moi j'ai pas tellement envie de nourrir ça, évidemment, parce que je pense que ça fait du mal à la société, et bien du coup j'ai pris cette décision, je me dis que ça va être peut-être plus apaisé. Par exemple, pour vous montrer le dernier visuel de Simplay, petit cadeau, la régalade. Les modos l'ont vu depuis hier soir parce que c'est mes chouchous, c'est mes copains. Alors attendez, je vais vous le mettre quelque part. Le visuel de dimanche. Où est-ce qu'il est, le Sam? Je me l'envoie à moi-même. Hein. Je m'écris beaucoup à moi-même, comme j'ai pas d'amis. IRL. Ok, let's go. Ok, il est là. Vous allez voir la régalade. C'est l'algo qui recommande en fonction des intérêts. Il y en a un qui commente et ça suggère le tweet à tous les autres fous du bus. C'est ça, Sim, c'est ça le truc, c'est comme ça que ça marche. Car un fou a réagi avec la publication, me dit Cyprinon. Donc l'algorithme de X, l'algorithme du réseau du chétan, se dit que cette publication plaît à tous les fous / personnes qui réagissent à ce type de contenu. C'est comme ça que ça marche. Ah ok. Ah bah là, ok. Bon bah merci. Je me disais, mais les mecs, c'est un club, c'est un... Tu vois, ils s'envoient des fax. Ah, c'est vachement intéressant. L'algo du chétan. Ok. Ah ça, c'est vachement intéressant ce que vous dites. Ok. Allez, je vous montre le visuel de fou, là. Alors, attends, on va faire logo, ça me plaît. Parcourir. Qui n'est... Oh là là, la régalade. La régalade. Je ne l'ai pas posté, hein, sur les réseaux. Il est là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ce visuel, mesdames et messieurs. C'est cadeau. Dimanche. Un ça me plaît sur un jeu important, bien sûr, Farming Simulator, avec le roi de la simulation. C'est un gars qui simule. Tous ses proches me l'ont dit, c'est un simulateur. C'est un mec qui simule. Voilà. Toujours se méfier de Bruno. Bruno, il simule bien, je sais pas, on va lui demander. Bruno Univers Simu, voilà, c'est un fou de simulation. Il simule comme il respire. Voilà. C'est fait par IA? Non. Ah non, ici on met un point d'honneur à ce que les visuels soient faits par des personnes, notamment par Léa, qui est la graphiste qui fait tous mes visuels de Simplay. Par exemple, la photo que vous voyez là de Bruno, c'est une photo qu'il m'a envoyée, lui. Donc il a posé exprès avec un chapeau, avec l'épi de blé, j'ai la photo. Et puis j'ai dit à Léa, bon, tu prends une de mes photos avec ma tête de champion. Voilà. Et puis par contre, tu mets-moi une salopette. Voilà, Léa plus forte que l'IA, exactement. C'est Léa et c'est pas l'IA ici. Ouais. Et mets-moi une salopette. Par contre, la photo de moi en salopette, ça n'existe pas. Mais c'est ma tête. Et je lui dis, vas-y, mets-moi une salopette. Pour faire un peu ambiance. Et ça donne ça. Donc, alors, la directive artistique, c'est moi. Parce que pour le coup, la photo de Bruno, il me l'a envoyée à moi. Au début, il m'a envoyé une photo. On a l'impression qu'il venait de faire quelque chose de mal. Hein, tu vois, genre... La photo du prisonnier, quoi. Et après, on a vu une deuxième, vraiment sympa, celle-là, littéralement. Et puis, du coup, je voulais être à niveau, je lui dis, mets-moi une salopette. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais j'ai une fourche aussi. Une fou-fourche. Bon, on la voit pas très bien. C'est pas mal, hein. On dirait une pub pour L'amour est dans le pré. Alors, on n'a pas prévu de faire L'amour dans le pré, tous les deux. Hein. Dimanche soir, on va jouer à Farming Simulator. Oui, une faux-fourche. Une faux-fourche pour la papaye, bien sûr. Pour ramasser la papaye. Vous avez la ref. Réhabilitons les salopettes. Je suis pas sûr, Marvel BZH. Non, alors, la réhabilitation des salopettes, là, je ne suis pas sûr. Joe va apprécier. Ah oui, c'est vrai que Joe, il met les salopettes. Oui, bon, après, c'est une autre génération, hein. Salut, il dit plus. Merci pour ton message. Merci pour l'écoute des podcasts. Pardon, mais salopette, mieux que le Bob. Samuel, il faudrait que tu aies une salopette pour ce live. Je sais plus. Il y a Chel qui dit, je connais la ref, la foufourche pour la papaye, mais c'est pas un truc des nuls, un truc comme ça. Bon, trêve de bilvesée, trêve de discussion, je suis super bavard ce matin, excusez-moi. Donc ça, c'est un truc que je vous poste sur les réseaux, et notamment sur le réseau du Chétan. Je pense qu'on aura moins de soucis désormais grâce à ce subterfuge des messages en privé. Donc tous les gens qui me suivaient jusqu'ici vont pouvoir continuer à voir ce que je poste sur X. Et par contre, toutes les nouvelles personnes qui vont vouloir me follow pour voir mon contenu, hein, les bagarreurs de cours de récré là, de mes couilles, et ben, il faudra que je valide en fait le follow, quoi. Donc ça devrait un peu calmer le truc, quoi. Moi, je suis pour l'amour, moi. Merci Lili Plu, merci Coben, merci Aokayas, merci la Diva Créole, merci Pompidou, merci Mélanie Nouveau Média, merci encore Babylonia 51 et Lisandril. Subterfuge. Non, nous n'incitons pas au sub ici. Sub qui veut. Qui même me sub. Hein. Mais voilà. Le subterfuge n'est pas une incitation à sub. Voilà. Sam en salopette dimanche. Voilà. Il y a un sondage en cours en haut. Voilà. Bon, par contre, les lettres, c'est superflu. Hein, les lettres, c'est superflu. Sam en salope Z, Dimash. Voilà. Alors voilà. Cette chaîne va à volo. Les modos maintenant font des sondages à tire-larigot. Il n'y a plus de règles. Hein, les consonnes, les voyelles, tout ça, c'est très. Merci Lilandril pour les 5 abonnements offerts à la commu. Alors maintenant, on en est là. Maintenant, on fait des sondages comme ça. Hein. On fait des sondages à la va comme je te pousse. Non. Allez, je mets des lettres, je tape sur mon clavier. Ouais. Ah oui, c'est vrai, les règles Twitch, je voulais pas le mot salopette, je l'ai vu que ouais, le mot salopette est bloqué par Twitch. Salopette, tu sens l'intelligence de la modération, salopette, dans salopette, il y a pète. Il y a salo. Ouais. Voilà. Bon, on y va, je suis super bavard ce matin. Il y a salo, il y a pète. Il y a l'eau. Ah oui, il y a l'eau. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire une petite revue de presse? On en a pour 2 heures, il va falloir accélérer les gars, parce que à midi, je vous quitte là. À midi, je vous quitte, j'ai un rendez-vous chez le banquier. Peut-être pour les projets, on ne sait pas. On y va ? C'est parti ? Let's go ? Ok. Je vais vous faire le sommaire pour commencer. Voilà. Et sachez que pour ceux qui nous écoutent en podcast, la revue de presse, elle commence là. C'est-à-dire, il faut bien que sur Twitch, il y ait des bonus. C'est-à-dire, tout ce qu'on s'est dit pendant 38 minutes, là, et la musique, et le Bob, et le Summer Body, etc. Ça, c'est pour Twitch. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est pour vous. C'est générosité. C'est amour. Voilà. Mais en podcast audio, je donne pas ça, ça commence au sommaire. Voilà. Et donc là, les gens qui nous rejoignent depuis le podcast, ils découvrent la folie du gars. Allez, go. Tac. Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch. On est très heureux de vous retrouver. On est le mercredi 21 janvier 2026. Tous les jours depuis 5 ans, on lit les journaux, l'actualité, on en parle de façon chill ensemble. Voilà. Amis qui nous écoutaient en podcast, on est très heureux que vous nous écoutiez. Sachez que avant que ce sommaire, parce qu'on va commencer par le sommaire, ne débute, avant, il y a souvent 30 minutes de logorée, de délire. On rigole, on dit n'importe quoi. Mais ça, je vous préserve, je vous protège. Si vous voulez écouter tous nos délires, c'est... avant, c'est la petite demi-heure d'avant. C'est parti, qu'est-ce que j'ai ce mercredi dans l'actu, petit sommaire, et après on va développer tout ça. Trump, 1 an. Alors, c'était le 20 janvier, donc c'était hier. Hier, on a lu plusieurs dossiers sur 1 an de Trump pour son deuxième mandat, 1 an de pouvoir, 1 an ressenti 30 ans, hein, disaient certains journaux, autour du monde de se pencher sur cet anniversaire. Est-ce qu'il faut le célébrer? On en parlera. Donald Trump, une année de loi du plus fort. Hein, retour sur cette année. Bilan dans le monde. Un an après son retour, écrit le journal, Trump a imposé la culture de l'impunité. D'où le titre de ce paragraphe ce matin. Trump, l'impunité au pouvoir. Ensuite, les journaux de ce matin. Alors, je vais notamment me servir du Figaro et du Parisien, ici. On va se pencher sur le ton qui monte entre le président français et le président américain. Voilà. En une du Parisien, d'ailleurs, il y a un mot rigolo, c'est la fin de la bromance, regardez. Voilà. De la bromance au bras de fer. Voilà. Les coulisses d'une rupture. Voilà, ça. Longtemps, le président Macron a tenté de charmer le président américain. Bon, là, ils sont passés manifestement à autre chose. Les coulisses d'une rupture, nous dit le Parisien. On parlera... Alors ça, c'est une belle... Pardon pour l'expression, là, j'éditorialise un petit peu, mais de ce qui semble quand même être une belle dinguerie, le conseil de paix proposé par Trump, censé remplacer l'ONU, $1 milliard le ticket d'entrée, un conseil de paix géré par Trump. Voilà. Waouh. Donc on va se pencher sur cette histoire. Vous en avez parlé dès hier, donc j'ai un article dans le Parisien ce matin qui semble assez clair. Et c'était aussi la une du Figaro ce matin. L'Europe se prépare au divorce avec les États-Unis. Alors que Donald Trump a attendu à Davos, c'est le sommet de Davos en Suisse. Davos d'ailleurs, c'est en Suisse. Pourquoi je dis Davos? Non, Davos en Suisse. Alors que Donald Trump a attendu à Davos les menaces des Européens d'une nouvelle guerre commerciale, les Européens commencent à prendre acte de la rupture du lien transatlantique, même si certains misent encore sur la négociation. Peut-on encore négocier avec Trump? C'est une bonne question. Le monde selon Trump, édito de Philippe Gély. Et cet article ici du Figaro, toujours, l'Europe prend acte dans la douleur du divorce avec Washington. Un divorce aujourd'hui. On parle d'un divorce entre l'Europe et les États-Unis. C'est énorme. Voilà. Et puis, hop, regardez en dessous, je vous ai mis une autre actu, mais qui est liée à cette question. Quelle est la dépendance de la France vis-à-vis des États-Unis sur le plan numérique, en termes de paiement, en termes de cloud, en termes de d'accès à Internet même, voilà. Eh ben, elle est énorme. Eh ben, je spoil. Eh ben, elle est énorme. Et alors, du coup, il y a des gens qui posent la question, mais et si Trump décidait de couper le robinet d'Internet, du World Wide Web? Voilà. Donc, il y a un article de Libération là-dessus. Ensuite, l'enchaînement sera... de façon assez naturelle, j'ai un article dans les échos que je trouve assez passionnant sur c'est un reportage sur le parquet de Paris et une cellule du parquet de Paris qui lutte contre la cybercriminalité. Ces magistrats français qui ne lâchent rien, je trouve ça vraiment intéressant. À la tête de la section J3 du parquet de Paris, c'est comme ça que ça s'appelle, Johanna Brousse, tout juste 40 ans, traque les cybercriminels et défie les géants de la tech. Malgré des moyens limités, son équipe tente d'envoyer un signal fort. La justice existe aussi dans le Far West numérique. Je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. C'est vraiment bien foutu. Ça montre que les moyens sont dérisoires par rapport aux enjeux, mais que ça bosse, quoi. C'est assez, assez intéressant. Alors, tout autre chose. L'expression est affreuse. Le devoir conjugal. Le devoir conjugal. Vous aviez des gens à une époque, et peut-être qu'on va en trouver encore aujourd'hui, hein, qui, oui, dans le cadre du couple, du mariage notamment, eh bien oui, il y a une forme de devoir conjugal. Voilà. Et là, il y a une proposition de loi qui arrive au Parlement, qui vise à quoi? À abolir explicitement cette notion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte de loi en France qui... définit le devoir conjugal. Mais il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence en France, mesdames et messieurs, notamment liée aux séparations et aux divorces, dans un passé encore récent, eh bien, a étayé cette notion de devoir conjugal. Alors évidemment, il n'y a pas de devoir conjugal, hein, qu'on soit très clair. Et là, il y a une loi qui arrive pour le dire et le proclamer très clairement. Et non, c'est pas une blague, l'État sous. Mais je vais te lire ce papier qui est vraiment passionnant. Voilà. Mais vous savez qu'en France aujourd'hui, si vous posez la question à la population, et notamment aux hommes, il y a une part non négligeable des hommes qui vont vous dire bah oui, mais si quand même, bah si, ah bah si quand même. Ouais. Ouais. Let's go. On parlera de ça. Et puis on terminera avec un truc que j'ai trouvé passionnant, c'est la Une du Parisien sur ChatGPT, le nouveau docteur. Ben. Des millions de Français interrogent désormais l'IA pour se soigner, l'IA générative. Dangereux, nos experts décryptent les bienfaits et les risques. Ça, c'est passionnant. Et si votre médecin traitant était une IA, j'ai trouvé le dossier bien fait. Voilà. Avantages, risques, qu'en pensent les médecins. Moi, je ne suis pas un grand utilisateur de ChatGPT. Voilà, mais hier, je le posais. Là, j'ai un problème. En ce moment, j'essaie de rentrer des sons dans ma table de mixage pour faire rire les gens. Des citations politiques célèbres, et je trouve que le niveau est trop faible. Et vraiment, j'ai passé 3 heures hier après-midi dessus. Et ce matin, après le premier café, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai décrit mon problème en lui citant ma Rodecaster Pro 2, etc. Et il m'a donné vraiment matière à réflexion pour résoudre le problème. C'est assez étonnant, hein, c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit sommaire ? Ça a de la gueule ou ça a pas de la gueule ? Alors ? Ça a de la gueule, merci de cette cède.
Splendid !
Dit Johnny Texas. Trump était en route pour la Suisse, il a fait demi-tour ? C'est une vraie info, ça ? Trump a fait demi-tour ? Oui, me dit-on. Pop, pop, pop. Eh oui. Ah, un problème d'avion. Où qu'il est ? Où qu'il est ? Où qu'il est le truc ? Il a redécollé. Allez, oui. Il a changé d'avion, il a redécollé. Il est reparti pour Davos. Non, c'est pas une fake news. Il est reparti, il est revenu. Ça va, ça vient. Voilà. Donc, du coup, on s'en fout. On y va ? Ouf ! Trump arrive en Europe. Ouf ! Attention à qu'il n'ait pas caché des soldats dans les soutes de l'avion et que de la Suisse, ils partent pas vers le Groenland. Je dis ça, je dis rien. Allez, let's go. Premier sujet. Donc, un an de Trump. Alors, c'était la date, c'était hier. Hein. Un an de pouvoir, un an de deuxième mandat de Trump aux États-Unis. C'était hier. On en a parlé hier avec des gros dossiers dans Libération, dans l'UMA, autour du Monde, de s'y coller. Pourquoi ? Parce que le Monde, c'est un journal qui sort l'après-midi. Et donc, il est daté du 21 janvier. Hein, il est dans le tête d'aujourd'hui, mais en fait il est sorti dans les kiosques et en PDF sur internet hier après-midi. Donc voilà pourquoi le Monde en parle. Donald Trump, une année de loi du plus fort, on commence avec ça. Et oui, ça fait qu'un an, et comme le disaient plusieurs journaux hier, un an mais ressenti plus, hein, parce que ouh, ça y va. Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier 2025, Trump s'est affranchi de toute règle sur les questions nationales comme internationales. Cette culture de l'impunité se diffuse à toutes les strates de son administration, notamment à l'ICE, l'ICE, la police de l'immigration, après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre le Conseil de la paix, puisque la France a dit « mais votre truc là, on va en parler, j'en veux pas », le président américain a menacé d'infliger des droits de douane et de 200% sur les vins et champagnes français. Trump a lancé une dinguerie. Un conseil de la paix, ticket d'entrée 1 milliard de dollars pour remplacer l'ONU, un truc totalement à sa botte, il sera le patron du machin, enfin bon, il a droit de veto non-stop. Et la France, par la voix de Macron, dit bah non, on va pas le rejoindre ton bidule. Ah bah, bah c'est parti pour les taxes. Mais il a dit, tu vas prendre, Manu, tu vas prendre 200% de droits de douane sur les vins et champagne français, quoi. C'est. Waouh. Encore une fois, on voudrait l'écrire pour une série. On dirait au scénariste, mais arrêtez, que ça n'a aucun sens ce que vous écrivez. Sauf que maintenant, c'est l'actualité. Un an après son retour, écrit Le Monde, Trump a imposé la culture de l'impunité depuis son investiture en janvier 2025. Il y a toujours un délai entre l'investiture et l'élection aux États-Unis. Le président américain s'est affranchi de toute règle, tant sur le plan national que sur la scène internationale, une toute puissance qui infuse dans toutes les strates de son administration. Je pense qu'on peut commencer la revue de presse en lisant cet article. L'échange est extraordinaire. Un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump fait face à 4 journalistes du New York Times, c'était le 7 janvier, il y a quelques jours, dans le bureau ovale. Il demande au milliardaire s'il voit des limitations à son pouvoir sur la scène mondiale. Ok, 2 points, ouvrez les guillemets. Ouais, Il y a une chose, ma propre moralité, mon propre esprit, c'est la seule chose qui peut m'arrêter. Et c'est très bien, je n'ai pas besoin du droit international, je ne cherche pas à faire du mal aux gens. La seule limite que Trump se met, notamment au niveau international, c'est lui. C'est, avec Trump, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas à éditorialiser, il n'y a pas à inventer, il n'y a pas à... Il suffit juste de le lire, juste de l'écouter. Et c'est comme ça depuis toujours. Pas de contre-pouvoir, pas de normes, pas de conventions, pas d'engagements multilatéraux. Un homme, le plus puissant du monde, seul, avec sa conscience. Inquiète est l'athlète qui porte une couronne, écrivait Shakespeare dans Henri IV. Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi, préférait noter le président américain sur X en février 2025, reprenant une citation attribuée à Napoléon. Allez ! Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. Dès 2019, au cours de son premier mandat, il disait qu'en vertu de l'article 2 de la Constitution, il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Tout est écrit chez Trump, tout est dit, rien n'est caché. Ce n'est pas ce que dispose cet article sur le pouvoir exécutif, ni ce que désiraient les pères fondateurs de la démocratie américaine, en quête au contraire d'un système équilibré profondément distinct de la monarchie britannique. Cette idée d'impunité accompagne Trump depuis longtemps et ne concerne pas seulement la politique. Vous connaissez aussi son rapport, par exemple, pour parler que ça, son rapport aux femmes et les poursuites judiciaires en la matière, hein, puisqu'on parle d'impunité, hein. Début 2016, juste avant les primaires républicaines, le candidat s'émerveillait publiquement de la ferveur de ses partisans. « Je pourrais me tenir, » disait-il. Là encore, il suffit de le citer. « Je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue à New York et tirer sur quelqu'un, et je ne perdrais aucun électeur. » Trump. Quelques mois plus tard, en octobre, dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle, la presse américaine révéla un enregistrement privé et ancien de Donald Trump dans lequel il parlait des femmes en des termes très crus. Bon, ça, je vous en parlais à l'instant. Je me mets juste à les embrasser, c'est comme un aimant, juste embrasser, je n'attends même pas. Et quand vous êtes une star, elle vous laisse faire, vous pouvez faire n'importe quoi. En fait, cette impunité, c'est ce que nous dit Le Monde dans sa dernière édition, sur tous les sujets, intérieur, extérieur, dans ses relations avec les autres. La transgression sans conséquence, la violation des normes, ainsi s'est construit Donald Trump. D'autant qu'à son âge, 80 ans en juin, il n'est plus question d'accepter les freins ou des compromis. Ainsi, plus besoin d'autorisation administrative pour détruire l'aile orientale de la Maison Blanche en vue de construire une salle de bal étincelante. Il a décidé de faire une salle de bal et de casser toute l'aile orientale de la Maison Blanche. Il le fait. Hein, il ne demande l'autorisation à personne. C'est à lui. Non. Ça semble être un détail, mais encore une fois, c'est symptomatique. Plus besoin d'informer le Congrès lorsqu'on entre en guerre. Pourquoi faire ? Hein, faire ce qu'on veut, prendre ce qu'on désire, à l'image du pétrole vénézuélien, hein, telle est la ligne rêvée, même si elle tressaute parfois par la faute des médias, des nombreux médias américains qui dénoncent ça, ou des magistrats, puisque la justice américaine, ces derniers mois, a souvent bloqué, gêné, freiné des décisions de Trump. Rien n'est sacré, pas même la Constitution, à l'image de la remise en cause par décret présidentiel du droit du sol pour les enfants de migrants en situation illégale. Le fait d'avoir échappé à deux tentatives de destitution au cours de son premier mandat, puis aux fourches de la justice, a renforcé cette inclination chez Trump. L'impunité est une eau de vie puissante, dont la fermentation a mêlé une revanche politique inespérée et un désir de vengeance. Trump pense qu'il a eu raison contre quasiment tout le monde. Après son départ de la Maison Blanche en janvier 2021, vous vous souvenez, il se trouvait si seul, pestiféré entre les murs de marbre de sa résidence de Mar-a-Lago. Il a pourtant triomphé de tout, des doutes de son propre camp, des séries d'inculpations dans 4 affaires, d'une condamnation au civil pour agression sexuelle, puis au pénal à New York pour falsification du document comptable. Il a battu 2 candidats démocrates en un seul cycle électoral, Joe Biden puis Kamala Harris. Il a enfin survécu à 2 tentatives d'assassinat pendant la campagne. Comment ne pas se sentir invincible ? Il y a Not Giant Squid qui dit un genre de Rocky Balboa du mal. Oui, deux, parce que ils disent que Biden s'est retiré de la campagne suite notamment à son débat complètement raté, tu sais, et que du coup il a à la fois battu Biden et Kamala Harris. Pif pouf, c'est pour ça que le monde dit ça. J'aime bien l'expression un genre de Rocky Balboa du mal de Not a Giant Squid. Comment ne pas se sentir invincible jouissant d'une onction divine ? De cette adversité, je trouve que l'article est quand même super bien écrit. Pour le coup, ça c'est un vrai, c'est un petit dessert. C'est un petit dessert quand même. Deux tentatives d'assassinat ? Alors attends, ils en citent. Bah, ils citent celle de Butler, ils citent pas l'autre. Ouais. Ce serait laquelle, la 2? Oui, MMG confirme, il y a une autre près de Mar-a-Lago, à son club de golf, me dit Delam. Ok. De cette adversité, Trump a forgé un double récit répété de micro en estrade. Celui de son innocence et celui d'un complot, le fameux complot, hein, fomenté par les démocrates et par les juges complices instrumentalisant l'État fédéral, ce qu'il appelle le « deep state », l'État profond. Y croit-il intimement ? Cela n'a aucune importance, écrit le journal. Seul compte la conclusion impérieuse, rendre l'appareil au centuple. Mettre ses accusateurs sur le banc des accusés, quitte à tordre le droit et à utiliser le ministère de la Justice comme un outil de vendetta. Cela commence par une réécriture de l'histoire, un renversement des faits. Quelles étaient les allégations les plus graves contre Trump ? Hein, son rôle clé dans la tentative de coup d'État multiforme après la victoire de Biden, c'est, vous savez, l'assaut du Capitole. Hein, donné par ses partisans. Dès son retour à la Maison-Blanche, vous vous souvenez des images ? Dès son retour à la Maison-Blanche, le milliardaire a accordé une grâce présidentielle à plus de 1500 émeutiers, y compris ceux qui avaient agressé des policiers. Impunité en partage, même si certains avaient déjà effectué des peines de prison. Plus largement, Trump a transformé l'usage de ses grâces en outil de faveur partisane. Première étape. Deuxième étape. A consisté à abattre la supposée muraille éthique, empêchant le pouvoir exécutif de s'immiscer dans les affaires sensibles sous l'autorité du département de la justice. Pam Bondi, la ministre de la Justice, est entièrement dévouée au président. Même chose pour le patron du FBI, Cash Patel. Jamais encore l'appareil d'État n'avait été aussi politisé et mis au service exclusif du pouvoir exécutif. Les Républicains contrôlent en même temps la Chambre des représentants et le Sénat, où ils ont accepté des humiliations en chaîne de la Maison-Blanche. Ils peuvent aussi compter sur une majorité conservatrice, 6 juges sur 3, on sait où, à la Cour suprême. La décision en juillet 2024 d'accorder une immunité au président des États-Unis pour ses actes officiels a non seulement mis Donald Trump à l'abri des poursuites en cours à l'époque, bon, c'est une décision de la Cour suprême, comme celle pour la rétention de centaines de documents classifiés, elle a aussi constitué un chèque en blanc pour son second. La nouveauté est que cette impunité n'est pas seulement un état psychologique dans lequel un dirigeant s'affranchit ou plutôt pense s'affranchir des conséquences de ses propres actes. Cette impunité est devenue une méthode de gouvernement, dans le cas d'une extension du pouvoir exécutif jamais vue dans l'histoire du pays. Elle ruisselle du président à ses conseillers, des conseillers jusqu'au cœur des organes de l'État fédéral, jusqu'aux agents de terrain, en particulier ceux de l'ICE, de l'ICE, hein, la police de l'immigration, hein, chargés de la traque des clandestins. Des agents masqués, sans signe d'identification personnelle, avant toute enquête officielle, sur les circonstances de la mort de René Good, abattu au volant de sa voiture le 7 janvier par un membre de l'ICE, le vice-président J. Devens estimait que cette mère de famille était responsable de son sort tragique. Le pouvoir américain a qualifié cette femme, abattue de 3 balles par un policier de l'ICE, de terroriste de l'intérieur, avant tout début d'enquête. Ce gars, rajoutait J. Devens, à propos du policier qui avait tiré, déclarait « Ce gars est protégé par une immunité complète. » Le rejet de toute contestation, critique ou limitation par la présidence accentue la polarisation du débat public en favorisant des discours de guerre civile, en désignant des ennemis de l'intérieur. Petit jeu auquel jouent beaucoup de gens chez nous aussi sur les réseaux sociaux, hein, les ennemis de l'intérieur. Tu verras en 2027, tu verras, tu feras moins le malin, etc. Les juges fédéraux qui sanctionnent les excès de l'exécutif, des dingues d'extrême gauche, expression récurrente chez Trump ou son conseiller Stephen Miller. Les citoyens américains manifestant contre l'administration, hein, ou bien contre les opérations de l'ICE, là encore de dangereux gauchistes, non représentatifs, forcément payés par de puissants donateurs. C'est ça la lecture des manifestations de l'opposition par Trump. L'état de droit est négligé. Seul compte le droit de l'État. Et l'État, c'est lui. Dès sa première semaine à la Maison-Blanche, Trump a congédié, sans avertir le Congrès, 17 inspecteurs généraux indépendants travaillant au sein de différentes agences fédérales. Celles-ci sont dorénavant politisées et placées sous la coupe de la Maison-Blanche. Le président a aussi ouvert toutes les portes, à part celle du Pentagone, à l'équipe d'Elon Musk, à la tête du DOGE, hein, le département de l'efficacité gouvernementale. À ce jour, on ne connaît pas les conséquences de leur accès aux bases de données les plus sensibles des contribuables américains. Les conflits d'intérêts, puisqu'on parle de Musk, du patron de Tesla et du réseau X étaient énormes. Donald Trump les a balayés. Il refuse aussi de discuter des siens en prétendant que ses fils gèrent en toute indépendance les investissements familiaux. Tout se passe dorénavant de façon assumée, à l'image de l'entrée fracassante du clan Trump dans l'univers de la crypto-monnaie. Interrogé par le New York Times, le président disait au sujet de ses fils « Je leur avais interdit de faire des affaires pendant mon premier mandat, mais je n'ai eu aucune reconnaissance pour cela, je n'étais pas obligé, et c'est vraiment injuste pour eux. » Avant d'ajouter « J'ai découvert que tout le monde s'en moquait et que j'ai le droit. » Donc, business de la famille Trump pendant mon mandat, let's go, rien à foutre. Si les démocrates parvenaient à prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, de mid-term, ils n'auraient que l'embarras du choix pour ouvrir des enquêtes. Cette impunité concerne aussi la politique, parlons de diplomatie, étrangère des États-Unis, dorénavant délestée de toute référence au droit international, aux conventions de Genève, aux principes défendus par les présidents successifs de 1945. La jungle n'admet que la loi du plus fort. Les alliés sont méprisés, voire soumis à des opérations de déstabilisation. L'extension territoriale des États-Unis est fixée comme un horizon, au mépris de la souveraineté du Danemark pour le Groenland, du Panama pour son canal, du Canada. L'administration abuse volontiers d'un sophisme, la fin justifie les moyens. Les exécutions extrajudiciaires qui semblent être pratiquées dans les Caraïbes par l'armée américaine contre les équipages des bateaux transportant supposément de la drogue ne sont pas niées. Elles sont enrobées d'une file pellicule juridique selon laquelle les cartels ont été classés comme organisations terroristes menaçant les États-Unis. Mais Trump emploie lui-même plus volontiers un argument imagé. Chaque bateau détruit avec son chargement représenterait 25 000 vies sauvées. Voilà. Sauf qu'on se demande si dans ces bateaux, il n'y avait pas des bateaux de pêcheurs. Hein. Puisque il n'y a aucune enquête avant les frappes et aucun témoin pour parler de qui était sur ces bateaux. Cela n'a pas empêché le milliardaire en décembre 2025 d'accorder, tant qu'à faire, une grâce à l'ancien président du Honduras condamné pour trafic de cocaïne. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait. Le faire. Voilà. Bel article, hein ? Je vous lis. Ouais, l'article est vraiment bien écrit. En une page, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Il y a un exercice de rigueur là qui est assez incroyable, quoi. Et alors, ce qu'on va faire aussi ce matin, c'est consacrer un certain temps à l'analyse des relations abîmées, à un point incroyable, entre les États-Unis et l'Europe. Amis qui nous écoutent en podcast, quand je fais des petits silences comme ça, des petits blancs, c'est pas parce que je fais des siestes. Enfin, si, en vrai, mais officiellement, c'est parce que je lis le chat. Donald Trump qui dit qu'il va rester à la tête de son conseil de sécurité, ou est-ce qu'il appelle le conseil pour la pêche, pas quoi, après la fin de son mandat. Ah, ça, on va en parler. Oui. Ben, on va en parler peut-être avec le Parisien juste après. Voilà. Ici. On te voit t'assoupir et fermer les yeux. Non, c'est faux. Oui, on aurait pu en parler. On en a déjà parlé ici. Grizzly, je surveille ce sujet aussi. L'article n'a pas évoqué les Epstein Files qui collent à Trump et certains MAGA qui lui demandent des comptes sans parler de son envie de rester en 2028. Oui, c'est vrai. Je pense que le journaliste, on va peut-être le citer d'ailleurs, très bon article, Piotr Smolar, peut-être s'est dit, bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai qu'une page, quoi. Mais effectivement, ça aurait pu y figurer, tout à fait, tu as raison. Ouais, je pense que le journaliste a dû faire des choix. Alors, Le Parisien, et maintenant, il y a plus, beaucoup d'articles ce matin sur la détérioration à vitesse grand V des relations entre les États-Unis et l'Union européenne et l'Europe, les anciens alliés. Est-ce qu'on peut encore parler d'alliés? En tout cas, avec l'Amérique de Trump, sans doute pas. Les coulisses d'une rupture. Salut, Indy, que je. Les coulisses d'une rupture, c'est le titre du Parisien. Là, on parle précisément de la rupture entre Trump et Macron. Jekyll écrit, le fameux moment où Trump va encore s'énerver sur Macron parce qu'il ne veut pas rentrer dans son nouvel ordre, où il faut payer 1 milliard d'entrées et ensuite être sous son contrôle car il sera président à vie et peut donner la suite à ce qu'il souhaite, incroyable. Lisons. Les coulisses d'une rupture. Depuis que le président français montre les muscles, son homologue le rabroue sans ménagement. Ah, il faut que je change dans le sommaire, autant pour moi. Merci les amis. Merci de votre attention. Article de Gaëtan Morin et Charles de Saint-Sauveur. Chaque jour, la tension monte d'un cran. Maltraitant ses alliés européens, vous avez vu que le Parisien met le mot allié entre guillemets, hein, Donald Trump menace de reprendre la guerre commerciale si le Danemark ne baisse pas pavillon sur le Groenland. Ce qu'il a annoncé samedi. Ce qui est une folie, hein, quand même. Vous ne voulez pas que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland? Ok, let's go, je relance la guerre commerciale. Impunité, hein, c'est le mot du monde. La hausse des droits de douane est devenue son arme de choix et il la dégaine à tout va. Guerre commerciale qui s'est soldée par un accord, hein, il y a quelques mois. Voilà. Mais Trump dit samedi, eh ben je remets ça. Il y a un accord, je m'assois dessus. Parce que vous voulez pas me donner le Groenland. Je n'invente rien, ce sont ces mots. Hein. Je suis même soft, je n'arrive pas à être aussi trumpiste que le modèle original. Dans ce collimateur, c'est l'Union européenne, mais surtout la France. Hein. Ce partenaire non aligné, attaché à la souveraineté nationale et à sa tradition gaulliste. Mardi, Trump s'est donc offusqué du refus de Macron de prendre part à son Conseil de paix, dont on va parler tout à l'heure, censé court-circuiter et enterrer le Conseil de sécurité de l'ONU. Je vais mettre, réponse de Trump, 200% de droits de douane sur les vins et les champagnes français, et il y adhérera, Macron, a-t-il fanfaronné, enfonçant le clou, toujours en parlant du président français, personne ne veut de lui, parce qu'il sera bientôt sans mandat. Un mépris qu'il ne cherche même plus à réprimer pour ce petit bonhomme, citation, d'un petit pays, c'est vous, c'est nous, qui ne marche pas si bien, c'est la France, pointe la politologue Nicole Bacharan, et qui ne respecte que la loi du plus fort. Macron a compris qu'il fallait à présent montrer les muscles face à cette Amérique impérialiste. Il a d'abord envoyé une quinzaine de chasseurs alpins sur l'île Arctique dans le cadre d'un exercice mutualisé avec le Danemark, avant d'inciter les 27 à riposter à l'offensive américaine en mettant en place le bazooka commercial. Arsenal qui limite les importations et l'accès au marché public. C'est un truc qui a été inventé il y a quelques années contre la Chine, qui n'a jamais servi encore, qui est très dur à déclencher parce qu'il faut une majorité qualifiée. Au Parlement européen? Non, au niveau de la Commission européenne plutôt, je pense. Enfin bref, une majorité qualifiée. Non, au niveau des États, je dis une bêtise. Une majorité qualifiée au niveau des États, un certain nombre d'États, il y a peu de chances que les Européens arrivent à s'entendre sur ce bazooka commercial. Conçu pour contrer la concurrence chinoise, il pourrait servir à tempérer les ardeurs d'un pays « ami » et guillemets encore. L'Europe a des outils très forts et nous devons les utiliser quand nous ne sommes pas respectés, a fait valoir le président français depuis Davos en Suisse. La question sera au menu du Conseil européen extraordinaire convoqué à Bruxelles jeudi soir, même s'il est peu probable, c'est ce que je vous disais, que l'UE aille si loin, hein, avec ce fameux bazooka commercial, si loin et si vite. D'autant que le vote, c'est ce que je vous disais à l'instant, se fait à la majorité qualifiée, hein, et que la France peine à rallier l'Allemagne et l'Italie, entre autres, sur le recours à cet outil. Au-delà des gesticulations de Trump, c'est sa relation avec Macron qui interpelle, foulant les règles de protocole, contournant les coulisses feutrées de la diplomatie. Ces deux-là ont pour l'habitude, depuis leur premier mandat, de s'appeler sur leur portable, de se donner du Donald et du Emmanuel, d'être à tu et à toi, de s'envoyer des SMS. Un dialogue franc et direct, toujours revendiqué par l'Élysée, ouais, attaché à tendre la main malgré les soubresauts de la bromance. Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qui était en poste lors du premier mandat de Trump, témoigne d'une anecdote. Un jour, j'assistais à un entretien entre Emmanuel Macron et Donald Trump à New York. Trump disait n'importe quoi, répétait 10 fois la même phrase, c'était surréaliste, témoigne ce diplomate. À la fin, je demande au président ce qu'il a pu tirer de cet échange. Réponse de Macron, rien, mais c'est l'homme le plus puissant du monde. Maintenir le dialogue, donc, coûte que coûte, avec l'ami américain, guillemets, qui ne se comporte pas tout à fait comme un allié, a reconnu Macron mardi. C'est dans cet état d'esprit qu'il a encore tenté un coup de poker en invitant Trump à Paris jeudi pour une réunion du G7, au menu le Groenland, pour tenter de comprendre l'obsession du moment du président américain. Proposition mornée, Trump ayant fait fuiter le SMS sur son réseau Truth Social, puisque maintenant Trump publie sur son réseau les SMS qu'il échange avec les dirigeants de la planète. Alors que les SMS vont vite s'arrêter. Alors que le fil de cette relation matinée de séduction et de vraie virilité se tend, elle dévoile aussi ses impasses. Macron a essayé, ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que ça a échoué. Je dirais que ça n'a pas marché. Analyse Jeff Hawkins, diplomate franco-américain à la retraite. Avec Trump, la flatterie ou la carte personnelle, ça ne sert à rien. La seule chose qui compte, ce sont ses intérêts. Et ceux-ci semble désormais sans limite. Encore un bon article. Merci le Parisien. Quel scandale cette publication de messages privés, me dit Maribule, on dirait un mec qui partage les nudes de sa copine. Et le plus terrifiant, dit Pierre, c'est qu'il a annoncé les droits de douane comme ça, sur le tas, de façon un peu improvisée. Tu as raison, un journaliste lui a appris en live que Macron refusait son offre de rejoindre le Conseil de la paix, et réponse de Trump, ah ouais, il a dit ça, et bien contre Uno, bim, droits de douane. Oui, c'est vrai. Contre une autre. Alors, le fameux conseil de paix de Trump dont on parle tant depuis hier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi cette histoire encore? Article d'Ariel Guéze. Un nouvel ordre mondial. Point d'interrogation. Salut défécateur. Mi-janvier, Trump a annoncé créer un conseil de paix, Board of Peace en VO, instance initialement conçue pour superviser la reconstruction de Gaza. Mais en fait, dont la charte révèle un objectif bien plus large, œuvrer à la résolution des conflits à travers le globe. L'organisation vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits, explique le texte. Le Conseil de paix se présente donc comme un rival de l'ONU. Il n'entre pas en contradiction avec les Nations Unies, nuance une chercheuse alliée, Lucille Martens. La Maison-Blanche précise que ce Board of Peace s'aligne parfaitement avec la résolution de 1803 du Conseil de sécurité, hein, une affirmation qui donne une certaine légitimité à l'instance onusienne, analyse la chercheuse. Merci Caillou Bleu, merci Ghosty Babs, merci pour le soutien. Plus agile et efficace que l'ONU, ce Conseil de paix sera totalement à la main de Trump, annonce la charte. Donc c'est une instance supranationale dans laquelle il invite tous les pays du monde, mais le patron, ce sera Trump. Oh, c'est quand même bien pratique. Il en est le premier président et pourrait l'être jusqu'à la fin de ses jours. le règlement prévoyant qu'il ne peut être remplacé qu'en cas de démission volontaire ou d'incapacité constatée à l'unanimité du conseil exécutif de l'instance formée par qui ? Formée par lui. Chaque État membre dispose d'une voix lors des votes. Ah, ça c'est démocratique. Mais, de son côté, le milliardaire peut appliquer un droit de veto à tout moment. Donc, c'est la démocratie jusqu'au moment où je décide que j'ai raison. Mais... avec... mais... en fait, je pense que l'esprit humain est limité dans sa capacité à imaginer ce que Trump peut inventer. En fait, on ne peut pas prévoir ses moves. Parce qu'à chaque fois, c'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Cette charte tente d'institutionnaliser les structures de pouvoir auxquelles croit Trump avec une sorte d'alternative au modèle du Conseil de sécurité de l'ONU, indique une experte de l'ONU qui s'appelle Maya Ungar. Le président américain se retrouverait ainsi au sommet pour déterminer la politique mondiale avec tous les autres pays en dessous. Après tout. Hein. Face à ce nouveau système, les Nations Unies peuvent résister, assure l'autre chercheuse qu'on citait tout à l'heure, Lucille Mertens. Malgré une crise indéniable de légitimité et de financement, les États ne fuient pas le multilatéralisme onusien. L'ONU, qui compte 193 membres, n'est pas fondamentalement menacée, à moins que tous les États décident de rejoindre ce conseil de paix de Trump. Évidemment, plus ce conseil de Trump aura de membres, plus il sera légitime. Quelqu'un me demandait dans le chat il y a quelques minutes, mais est-ce que quelqu'un a déjà payé le milliard ? Est-ce que quelqu'un a déjà signé ? Depuis l'annonce de sa création, c'est le scepticisme qui règne. Au total, une soixantaine d'États ont été invités à participer, dont la Russie. Moins de 10, l'Argentine, le Canada et le Maroc, notamment, ont dit avoir accepté. Donc il y a des pays, pour répondre à ta question, oui, qui auraient accepté. Le virement n'a peut-être pas encore été fait, mais il y a, selon le Parisien ici, moins de 10 pays qui auraient déjà... Oui, le Canada, où j'étais un peu surpris aussi. Ouais. Ouais. Oui, je sais. Moi aussi, j'étais... Voilà, je peux pas répondre à... Faut qu'on... Pourquoi le Canada a dit oui. Je sais pas. Alors, simplement, on y dit, le Canada a accepté, mais a refusé de payer. Ah oui. Ok. Oui, c'est ça, le milliard, c'est pour avoir un siège permanent. Sinon, t'as un siège pour 3 ans, je sais pas quoi. Enfin, le milliard, c'est pour avoir la carte VIP. Tu vois. C'est pour avoir... c'est quand tu vas au club de gym du conseil de paix, là, t'as la serviette en plus. Bah c'est expliqué ici. Chaque État sera membre du Conseil pour un mandat de 3 ans, renouvelable par qui ? Par Trump. Hein ? Mais si un État paye 1 milliard de dollars, cette limite ne s'applique pas. Si tu payes 1 milliard de dollars, tu as l'abonnement à vie, quoi. Tu vois, je sais pas, Club Gym, ou je sais pas comment ça s'appelle, les trucs de gym, là. C'est l'abonnement à vie, en fait. Bon, après, faut pas que le truc fasse faillite, parce qu'après, t'es hein. La France, elle a clairement dit non.
Pourquoi ?
Mais enfin, ça a l'air sympa, pourtant, comme offre. La charte est incompatible avec les engagements internationaux du pays, en particulier son adhésion aux Nations Unies, qui évidemment ne saurait en aucun cas être remise en cause, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Voilà. C'est une ligue fermée. Ouais. Quelqu'un me disait dans le chat, info à vérifier, qu'aucun, quasiment aucun pays africain n'avait été convié. Alors Lilou, vous savez qui ? J'ai vu ta question déjà, mais je vais pas pouvoir y répondre ce matin parce qu'on y a répondu pendant des heures dans les streams précédents ces derniers jours. Lilou nous demande, mais je comprends pas pourquoi Trump souhaite récupérer le Groenland, ça lui apporterait quoi ? Alors on l'a déjà évoqué à plein de reprises et vraiment pendant des heures. Donc je vais pas pouvoir répondre à ta question, mais je vais essayer de faire simple. L'explication officielle, c'est le Groenland a un intérêt tactique essentiel pour les États-Unis et il accuse le Danemark, qui administre le Groenland de ne pas savoir garantir la sécurité du Groenland face notamment aux ambitions russes et chinoises. Voilà. Et il dit les États-Unis ont besoin du Groenland. Voilà. Et donc je vais le prendre. Voilà. Et je ne simplifie pas son discours, c'est ce qu'il dit, littéralement. Voilà. Sauf que le Danemark dit, mais non, c'est pas vrai. D'autant que les États-Unis ont déjà une base militaire sur place, en accord avec le Danemark, et pourraient tout à fait développer leur présence militaire en échangeant avec le Danemark, qui est un allié des États-Unis depuis de longues dates. Ils ont encore acheté des avions récemment. Mais pour certains chercheurs et analystes sur le sujet, Trump veut juste rester dans l'histoire du pays comme un président qui a agrandi le territoire américain, voilà, parce qu'il trouve ça chic. Il y a une anecdote qui le montre devant une carte du Groenland et où il dit « Ah, c'est grand voilà. !»« Make America great again, MMG, exactement. » Glacier du Groenland qui fonde nouvelles routes commerciales et nouvelles ressources exploitables. Oui, ça c'est très intéressant, mais ça c'est vous qui le dites. Mais lui ne parle pas de ça. C'est ça qui est génial. Hein. C'est ça qui est génial. Lui il est sur autre chose. Oui, c'est plus une histoire de taille, quoi. Ouais. Alors le Figaro se penche également sur cette actualité ce matin. Voilà. Sur cette Europe, là on a vu les tensions grandissantes. Merci Camille pour l'abonnement offert à Yas encore. Merci Auxil. Merci Auxil LR Twix pour le Prime. Oui, il est en mode c'est la taille qui compte quoi. Alors on a vu la tension grandissante entre la France et. Oui, mais le Maroc est convié, j'en ai déjà parlé. Zoën qui me dit le Maroc est convié et accepté, cherche bien. Mais c'est ce que je vous ai dit, Le Maroc a accepté, c'est écrit dans l'article. J'ai rien à chercher, on vient littéralement de le lire. Zoën, je vois pas de quoi tu veux me parler. Il y a l'ami Yas encore qui est là. Salut mon Yas, tu vas bien? On est sur le personnage Trump. Quelqu'un qui me dit, mais cherche bien. Non, j'ai pas dit que l'Afrique était pas invitée, j'ai dit que il y avait quasiment aucun pays africain invité. C'est marrant le refus de la nuance. Quand tu dis quasiment aucun pays africain invité, hein, et on te dit « Ah, mais cherche bien le Maroc !» Oui. Qu'est-ce qui vous gêne dans le mot « quasiment » ? Mais oui, Zoën, il faut écouter. En fait, aujourd'hui, on manque de nuances. Tu dis « quasiment aucun pays africain » et quelqu'un entend « aucun pays africain ». Donc, voilà. Et donc, en fait, c'est littéralement écrit dans l'article qu'on vient de lire, le Maroc, non seulement a été invité, mais il a accepté. Voilà. Pour le coup, on vient de le lire. Alors, donc ça, c'est la relation entre la France et les États-Unis. Et maintenant, il y a la relation qui s'abîme entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est encore plus, plus grave. Alors ça, c'est la une du Figaro ce matin. L'Europe se prépare au divorce avec les États-Unis. Alors que Trump, attendu à Davos, les menaces d'une nouvelle guerre commerciale. D'ailleurs, je vois que les bourses, les places boursières, hein, les bourses fléchissent. Alors que Trump, attendu à Davos, les menaces d'une nouvelle guerre commerciale, les Européens commencent à prendre acte de la rupture du lien transatlantique. Même si certains misent encore sur la négociation. C'est ça qui est encore qui est surréaliste. 6 mois après avoir imposé des droits de douane unilatéraux de 15% sur les produits européens, vous vous rappelez, on en a parlé pendant des jours. Je vous vois, hein, ceux qui écrivent « les bourses se vident, les bourses flétrissent ». Je vous vois, hein. Dans le chat, je vous vois. Hein. On en a parlé pendant des jours, pendant des heures ici, la guerre commerciale. Donc, eh ben, c'est pas fini. 6 mois après avoir imposé des droits de douane unilatéraux de 15% sur les produits européens, Donald Trump menace l'UE d'une nouvelle guerre commerciale avec des taxes supplémentaires de 10%, puis de 25%, tant qu'il n'aura pas mis la main sur le Groenland. Pourrait s'y ajouter une surtaxe de 200% sur les vins et champagne français si Emmanuel Macron refuse de siéger dans le fameux nouveau Conseil de la paix. qui a l'air pourtant un super club. On vient de se pencher dessus. Les Européens se préparent à riposter, malgré la crainte d'une escalade et un risque de fracture de l'OTAN. Des contre-sanctions. Alors ça, je suis un peu dubitatif. Je demande à voir. Portant sur 93 milliards d'euros de produits américains pourraient être actionnés. Ah bon ? Avant un instrument anti-coercition qui permet de bloquer des investissements américains ou de fermer l'accès au marché européen. Alors, moi je veux bien, hein, le petit conditionnel du Figaro là, sur l'Europe qui pourrait répondre par des sanctions commerciales à son tour. Mais si on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment les négociations commerciales entre les Européens et les États-Unis, pardon, mais j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce que dit l'édito de Philippe Gély sur le sujet ? Comprenons bien, écrit Philippe Gély. Nous voilà plongés dans un temps où se soumettre, c'est mourir. Ceux qui pensent qu'il vaut mieux un Groenland américain que russe ou chinois se méprennent gravement sur l'enjeu. Ce à quoi nous assistons n'est que la première étape d'une offensive américaine contre la souveraineté des pays européens. Leur vassalisation passe par la destruction de l'UE avec l'appui des forces souverainistes et la soumission de l'OTAN dans une solidarité à sens unique. Comme le Royaume-Uni déjà mis en cause sur l'île de Diego Garcia, la France s'expose aux appétits de Trump à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans son vaste chapelet de territoire d'outre-mer. Il faut donc accepter le combat. Les Européens peuvent, avec d'autres, former un front du refus et répondre aux coups qui leur sont infligés. À condition de comprendre à qui on a affaire, poser sur la table le bazooka de l'instrument anti-coercition ne suffira pas à impressionner le président américain. La dissuasion repose sur la crédibilité. On a lu il y a quelques jours, en début de semaine, une interview d'un chercheur qui s'appelle Bertrand Badi, qui disait exactement ça. Voilà. La dissuasion repose sur la crédibilité, sauf que Bertrand Badi disait la crédibilité européenne aujourd'hui face à Trump, elle est nulle. On ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, Philippe Gély dit la même chose. La dissuasion repose sur la crédibilité qui est nulle tant que nous avons peur de nos propres forces. Un premier signal serait d'éviter les courbettes devant Trump à Davos. Pas mal, c'était dit tout. Et un gros article, justement, qu'on va peut-être prendre le temps de lire, 10h48, sur l'Europe qui prend acte dans la douleur du divorce avec Washington. Je vais essayer de le parcourir, je vous lis un petit peu. Voilà. TFT de Totoro dit l'Europe est le plus gros marché économique des États-Unis, on a les moyens de résister. Mais tu as raison, les forces, même militaires et économiques, commerciales de l'Union européenne sont réelles, hein, quand tu regardes les chiffres, le papier. Sauf que l'Union européenne a énormément de mal à parler d'une seule voix, vous le savez, parce que ça n'est pas un État fédéral comme les États-Unis, c'est bien une union. Et avec des intérêts divergents. Par exemple, si on compare les intérêts divergents en matière commerciale d'exportation de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, pour ne parler que de ces pays, la puissance, elle est là, voilà, mais la difficulté, c'est de s'entendre, bien sûr. Je vous vois ceux qui disent vergent, parce que j'ai dit divergent. Je vous vois. Merci Valou pour le soutien. Je vous vois. Oui, je vous vois. Et j'ai envie de vous dire, quand je vois ce genre de comportement, parce que je viens de dire divergent et que vous dites vergent, qu'est-ce que je dis?
Quelle indignité.
Voilà ce que je vous dis, c'est tout. Non mais... Il était un peu trop fort? Je l'ai mis trop fort. Attends, je vous le refais en moins fort, parce que en ce moment, je fais des essais de son. Je vous le remets en moins fort.
Quelle indignité.
Ça va ? Mieux ? Ah, c'est moi ? Ah oui, parce que du coup, je c'est sur la même piste, alors je booste mon sang. C'était moi ? Je m'excuse. Mon chien a eu peur, pardon. Oh, imagine quelqu'un me dit, mon chien adoré, la lumière de ma vie, vient de mourir d'une crise cardiaque. Une pensée pour ma copine à côté qui passe un entretien et moi j'ai Samuel Etienne dans mon salon qui hurle « Pardon Scorox oh, ». Je suis désolé. Je suis vraiment confus, je m'excuse. Parce qu'en fait j'ai des problèmes de table de mixage en ce moment. Pardon. J'espère que je n'ai tué personne et notamment pas de chien ce matin, et pardon pour l'entretien que passe ta copine.
Je suis confus, je suis désolé.
Je reviens à un niveau normal. Voilà. Rip mon hamster. Oh non, j'ai tué un hamster. Mon petit chat dormait sur moi, il ne dort plus. Merde. Merde. Bon, désolé. Je m'excuse platement. Ma grand-mère vient de s'éteindre. Je suis sourd d'une oreille maintenant. Mince. Rip ma mamie. Le nombre de mamies qui viennent de partir. Je vois des rips, mon poisson rouge. Ok, let's go, on continue. Alors, il a l'air sympa cet article. Moi, rien de grave, mon client fait toujours la gueule, dit... dit couche. L'Europe prend acte dans la douleur d'un divorce avec Washington. On a des masterclass d'articles ce matin. La photo de l'été dernier a mal vieilli. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pouce levé, sourire crispé, aux côtés de Trump sur son golf écossais de Turnberry, l'image d'une Europe soumise au diktat du président américain en acceptant ses 15% de douane sur les produits européens. L'accord commercial, jugé indigne par certains, était un moindre mal pour d'autres, était censé apporter stabilité, prévisibilité, selon la présidente de la Commission. 6 mois plus tard, le même Donald Trump menace l'Europe d'une nouvelle guerre commerciale, avec des droits de douane supplémentaires de 10% le 1er février, de 25% le 1er juin, tant qu'il n'aura pas réussi à mettre la main sur le Groenland. Sans compter les surtaxes de 200%, je le rappelle, sur les vins et les champagnes français brandis ces dernières heures. Non, mais c'est vrai que la question que pose Shidoshin dans le chat, c'est Trump menace le monde, mais qui menace Trump ? Shidoshin dit, mais qui menace ? Rien qui menace ce type. Et oui, les gens commencent à se poser la question. Au bout d'un an seulement, du second mandat de Trump, la dure réalité commence à rentrer dans les esprits. L'apaisement s'est terminé, l'heure n'est plus à la négociation mais aux décisions courageuses. Les États-Unis n'agissent plus comme un allié, constate Valérie Ayer, qui est la présidente du groupe centriste Renew au Parlement européen. Première conséquence de cette nouvelle donne, bon, il y a des trucs qui commenceraient à bouger. La ratification de l'accord de Turnberry, qui doit réduire à 0% les droits de douane sur les produits américains importés en Europe, est suspendu par les partis majoritaires au Parlement Strasbourg. On est dans un moment de bascule, renchérit Raphaël Glucksmann, eurodéputé place publique. Maintenant, le seul agenda qui compte, c'est l'affirmation de la souveraineté européenne, quitte à assumer une forme de solitude. Avant l'arrivée de Trump et de son clan au forum de Davos, ce mercredi, certains veulent donner une dernière chance à la négo, comme Ursula von der Leyen ou le chancelier allemand Friedrich Merz, qui espère le croiser dans la station suisse. En parallèle, les Européens se préparent en coulisses à la rétorsion, au risque d'une escalade. Pour Emmanuel Macron, il est temps d'utiliser les outils très puissants à leur disposition pour répondre à une offensive du président américain qui vise ouvertement à affaiblir et subordonner l'Europe. « Nous préférons le respect au brut », a-t-il martelé. Une liste de contre-sanctions, c'est ce dont parlait le Figaro en Saoude, même si je suis extrêmement sceptique, ciblant 93 milliards d'euros de produits américains, élaborés l'an dernier, suspendus depuis, et prêts à être dégainés dès le 6 février. Nous sommes combien dans cette communauté, dans ce chat, à penser que l'Europe va dégainer une liste de contre-sanctions, ciblant 93 milliards d'euros de produits américains ? Nous sommes combien à penser que l'Europe va le faire ? Je pense que nous ne sommes pas beaucoup. Mais on verra. Peut-être que l'Union européenne va nous donner tort. Pour aller plus loin, les 27 doivent discuter lors d'un sommet extraordinaire jeudi soir de l'opportunité de brandir leur bazooka. Bon, cette phrase hors contexte, elle est bizarre. Hein. L'opportunité de brandir son bazooka. Son bazooka, on le laisse où, en général, on le laisse où il est. Hein. Sauf dans des contextes extrêmement précis où l'accord a été donné, hein, le consentement. Bon. Là, ça parle de sortir le bazooka. Oui, le bazouzou, comme dit Romano. L'instrument anti-coercition, c'est comme ça que certains l'ont appelé, qui permettrait de bloquer les investissements américains, 1. De lever l'application de leurs brevets et droits de propriété intellectuelle, 2. De réduire leurs importations ou d'empêcher l'accès à les marchés publics. Européen, c'est un gros truc. fait nouveau par rapport à l'an dernier, l'Allemagne serait prête à soutenir la France pour le mettre sur la table, le gros bazooka. Hein, waouh. La phrase est bizarre. Pour pardon. Non, j'ai des images là. Ah, c'est des images. C'est affreux. Au 1er février, si Trump exécute ses... Désolé, c'est la fatigue. Là, je ris tout seul. C'est... Je suis désolé. Je vois l'Europe en train de mettre son gros bazooka sur la table devant Trump. Désolé, c'est la fatigue. Je suis confus. Cela pourrait signifier l'exclusion du marché européen de Netflix. Écoutez, écoutez. Cela pourrait signifier l'exclusion du marché européen de Netflix, Amazon, Google, quitte à priver les consommateurs de services entrés dans leur vie quotidienne. Nom de Dieu. Sans forcément en arriver là, les dirigeants européens vont tester leur détermination lors de leur premier tour de chauffe jeudi soir. La commission réunit... Et Twitch, mais oui. Il y a Fizonet qui dit et Twitch. Mais les gars, on va les streamer sur Dailymotion ou quoi? Merde. Merde. Il y a quelqu'un qui écrit le gros retour de Salto. Non, Defecator dit on peut pas streamer sur Dailymotion, c'est du différé. Pardon, c'était une pauvre vanne. Ouais, effectivement, je suis pas sûr que ce soit Dailymotion soit la solution. C'est quoi? Bah, je créerai un Twitch français, moi. Eh, je vais créer un Twitch français. Comment on pourrait l'appeler Twitch français? Je l'appellerai Camembert, par exemple. Hein? Comment on pourrait l'appeler? Tout. Kick? Non, Kick, ça existe déjà. The French Social. French Streaming. Le. Trousse stream. Non, je suis pas sûr. Grosse baguette, ça j'aime bien. Quiche. Omelette stream. Ah oui, quiche. C'est pas Twitch, c'est quiche. C'est pas mal. On crée le YouTube français. Le toit tube. Le toit tube. La baguette. French Connection à l'ancienne. Pas mal. L'ORTF. Très bon ça. Putain, ça me plaît bien ça. J'adore. On est plein dit. Hey, qu'est-ce qu'on disait dans le passé, dans les années 70, lors du premier choc pétrolier en France? On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Regardez, qu'est-ce que peut faire Trump contre ça? Qu'est-ce que Trump peut faire contre cet esprit français, hein, cette inventivité, cette capacité à inventer, à créer, à bouger les lignes, hein? Qu'est-ce que la France, bien sûr? Qu'est-ce que peut faire Trump face à ça, hein? Face à l'esprit, cette finesse, exactement, à ces lumières. Qu'est-ce qu'il peut faire, Donald? Hein? Qu'est-ce qu'il fera face à notre réseau quiche? Voilà. Merci. Levez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Debout, voilà. Je vous le passe pas, je l'ai cassé le debout de Valérie Pécresse, faut que je bosse sur mes... Grâce à ChatGPT, il faut que j'arrange tout ça. Donc bref, la Commission européenne va réunir vendredi un collège de sécurité pour traduire une volonté en mesures concrètes. Même s'il ne faut pas s'attendre à des annonces spectaculaires. La fermeté à l'européenne, c'est rarement un moment waouh. Tempère l'eurodéputé Horizon Nathalie Loiseau, c'est un peu ce que je vous disais. Mais selon elle, oui quand même. Une prise de conscience s'opère dans les opinions publiques et fait nouveau par rapport à l'an dernier les milieux économiques de la nécessité de se faire respecter. Le divorce est sur le point d'être consommé. Les Européens n'espèrent plus sauver le mariage, au mieux ils espèrent un jour redevenir bons amis. Avec les Américains, résume Nathalie Tocci, analyste à l'Institut des Affaires Internationales. Certains croient encore qu'il suffirait de serrer les dents, hein, jusqu'à la fin de la présidence Trump, ou au moins jusqu'au mid-term, hein, peut-être. L'Europe ne renoncera pas à 80 ans de relations transatlantiques, assuré la semaine dernière le chef de la diplomatie européenne. La chef, c'est une femme. Giorgia Meloni, par exemple, la présidente du Conseil italien, veut tout faire pour sauvegarder ce lien. Devons-nous prendre nos distances au point de quitter l'OTAN, fermer les bases américaines, rompre les relations commerciales, prendre d'assaut les McDonald's, dit Madame Meloni. Voilà. Ces questions se posent pourtant. Emmanuel Macron déplorait mardi à Davos l'institution affaiblie de l'OTAN. Face au coup de boutoir de Trump, les Européens réfléchissent à voix basse à ce que serait l'Alliance sans les États-Unis. S'ils ont accepté d'y consacrer 5% de leur PIB sous pression d'ailleurs de Trump, ils ont compris que c'était dans leur propre intérêt. Une course contre la montre est engagée pour devenir autonome en matière de défense d'ici à 2030, échéance à laquelle une attaque russe pourrait survenir contre un membre de l'OTAN, on en a parlé ici, selon plusieurs services de renseignement. Or, comme l'a démontré dans le passé la solidarité de plusieurs alliés, dont le Danemark, les États-Unis tirent les bénéfices de leur rôle dans l'OTAN. Une rupture radicale pourrait les priver de leur rente et une base en Europe où sont positionnés près de 80 000 soldats, un élément majeur de la puissance américaine. Vous allez voir ce que vous allez voir. La réduction prévisible de cette force fait planer un doute sur la sécurité de l'Europe. Le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, a ressorti le serpent de mer d'une armée européenne de 100 000 hommes pour remplacer à terme la présence américaine. Il a également évoqué la création d'un conseil de sécurité européen. Ça, c'est un vieux débat. D'armée européenne. Voilà. Alors, c'est intéressant cet article. Il dit que dans les prochains jours, il n'y aura peut-être pas un effet waouh de sanctions très impressionnantes de contre Uno des Européens. Mais en tout cas, les mentalités évoluent, quoi. L'Europe est plus forte qu'elle n'en a l'air, ce serait bien de l'assumer enfin, plaidait récemment un chef de gouvernement nordique à Bruxelles. Il ne tient qu'à l'Europe d'accélérer sur la souveraineté technologique, les marchés de capitaux, la relance du marché unique. Face au retour de l'impérialisme, l'Union européenne se voit comme le dernier bastion du multilatéralisme. Après la signature de l'accord controversé avec les pays du Mercosur, elle négocie tous azimuts avec l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Australie, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, dans l'espoir de compenser les difficultés avec son premier marché, les États-Unis. Vous êtes très nombreux à parler d'indépendance, d'autonomie numérique. Il y a un article dans Libération qui arrive sur le sujet. Je vous lis et on enchaîne. Dans une heure, je vous quitte, je vous abandonne. Ça se tryhard l'actu ce matin. Qu'ils viennent, oh la communauté de gamers, qu'ils viennent avec leur armée, on fera wololo et c'est ok. On a la ref. Défécateur nous dit sérieusement, il faut des plateformes de réseaux sociaux et streaming européennes. On est trop dépendant des États-Unis et de la Chine. Ça s'appelle une passe décisive. Regardez le sujet qui arrive dans Libération. Il est ici. Il est pour vous, c'est cadeau. France, quelle dépendance numérique. À quel point la France aujourd'hui est dépendante du numérique américain? Bien que les alternatives existent, entreprises et institutions françaises ont massivement recours aux solutions d'acteurs états-uniens, ce qui n'est pas sans poser de problème en matière de maîtrise des outils et de protection des données. Let's go. Trump n'a aucune limite. Il peut tout couper. Il l'a déjà fait. Dimanche, Aurore Laluc, qui est une eurodéputée place publique, lançait cet avertissement sur X. Aurore Laluc, qui préside la commission des affaires économiques au Parlement européen, y demandait solennellement à la commission et gouvernants de travailler en urgence à un plan B. À quoi pense-t-elle quand elle écrit que le président américain a déjà tout coupé dans le passé? Oui, MMG, joli préchote, exactement. Sans doute au magistrat de la CPI, la Cour pénale internationale, placé sous sanction américaine en août, sur fond de désaccord avec les décisions prises par cette CPI. Depuis, les juges de la CPI n'ont plus accès aux services de Microsoft et d'Amazon. Ils ne peuvent plus recourir aux moyens de paiement rattachés à Visa ou à Mastercard. Ils sont condamnés à une cure numérique forcée et se voient obligés de quasiment payer tout en espèces, mesdames et messieurs. Alors la question que pose Libé, c'est les mêmes blocages pourraient-ils être étendus à demain à tout un pays, voire une communauté de pays comme l'Union européenne. Ce qui ne semblait être, il y a encore quelques semaines, qu'une hypothèse fantaisiste. Mais non, mais jamais Trump pourrait faire ça. Hein. Devient une option de plus en plus concrète à la faveur de l'imprévisibilité du dirigeant des États-Unis et de ses menaces de rétorsion commerciale. Si Trump interdit à ses entreprises de nous fournir des services, notamment numériques, ce sera terrible, alertait l'historien et géographe Sylvain Kahn. Du côté du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, on constate que les réflexions destinées à réduire la vulnérabilité française et européenne tout au long de la chaîne de valeur du numérique ont pris une dimension d'autant plus stratégique et revêtent un caractère d'urgence au vu de la situation internationale. Alors moi, je me pose une question toute bête. Parce qu'on passe sur cette phrase comme ça, là, comme on glisse sur une patinoire. Hein. Si Trump interdit à ses entreprises de nous fournir des services, notamment numériques, ce sera terrible. Mais Amazon, Microsoft, ces géants-là, Trump va leur dire, dites donc les gars, à partir de lundi, là, vous vendez plus un dollar, vous vendez plus rien à l'un de vos plus gros marchés, l'Europe. Mais que vont dire ces géants? Alors, tout puissant Trump, mais c'est MAGA, c'est MAGA. C'est le dérapage. C'est GAFAM. C'est GAFAM là, petite puissance aussi quand même. Cette petite puissance quand même aussi. À quel moment ces boîtes vont accepter de mettre leur modèle économique en danger parce que Trump l'a décidé? Hein? Alors, le chat est divisé sur ce sujet. Hardrad, pardon, ils vont faire comme leurs citoyens, grenier et accepter. Attention, les oui, remarque, oui. Et Sassou, au contraire, dit, ils vont dire, ouais, parle encore Trump, quoi. C'est du bluff, Bartoli. Oui, Vico. Est-ce que ça pourrait pas entraîner l'explosion de la bulle tech, par exemple, de Mang Hugues? Caillou Bleu estime que Trump tient aussi en laisse les GAFAM, pas sûr qu'ils aient le choix. Hein? Question, je pose la question, j'ouvre le débat. Où en est la France aujourd'hui par rapport à cette dépendance américaine? À quel point institutions, entreprises et citoyens sont-ils assujettis aux services numériques américains? Chacun peut le constater dans son quotidien. En ouvrant son ordinateur, où le logo Microsoft s'affiche partout sur le bureau, en allumant son smartphone exploité par Android ou iOS, en se rendant sur Google pour effectuer une recherche, en sortant sa carte bancaire Visa pour commander un produit sur Amazon, ou en se connectant à ChatGPT pour lui demander quelle alternative existe à ses prestations assurées par une entreprise américaine. Alors en France, on a la CB, bien sûr, qui est très puissante. Et on ne dépend pas que de Visa et de Mastercard. Mais quand même. Chacune de ces actions génère un flux de données qui, en grande majorité, vont atterrir dans les data centers américains. Au-delà du commerce en ligne, des applications, de la navigation, des réseaux sociaux, qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, les géants américains dominent tous les rouages de la machine numérique. Cette hégémonie s'exprime particulièrement à travers le cloud, c'est-à-dire la mise à disposition de services informatiques par le biais de serveurs répartis partout dans le monde et interconnectés, sur lesquels repose la majorité des logiciels modernes. Or, les trois grands fournisseurs internationaux de services cloud que sont Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud concentrent à eux seuls 70% du marché européen. Quant aux fournisseurs de services européens, leur part de marché a été divisée par deux entre 2017 et 2024. Donc il y a le cloud aussi. À côté de ça, donc ça veut dire qu'il y a des services qui pourraient être européens et français, mais qui dépendent de cloud américains. À côté des services permettant de faire tourner les logiciels, les infrastructures numériques sont complétées par les systèmes physiques d'absorption et traitement de données, les data centers. D'après une note du cabinet de conseil McKinsey, l'Europe héberge seulement 18% des capacités mondiales de data centers, dont moins de 5% appartiennent à les sociétés européennes, contre 37% pour les États-Unis. Ainsi, il est estimé que 80% des données générées par les internautes français lorsqu'ils naviguent sur Internet sont hébergées dans des serveurs et dans des centres de données localisés. Où ça ? Aux États-Unis. En raison du développement du marché de l'IA générative, largement dominé par les acteurs américains, la masse de données va encore s'amplifier. Avec quelles conséquences concrètes ? Le recours massif aux solutions américaines se traduit par une dépendance technique afin d'assurer la maintenance des infrastructures et logiciels informatiques et elle-même engendre de nombreux coûts. Pour les entreprises européennes, la suprématie américaine sur les outils numériques pèserait chaque année pour 265 milliards d'euros. Le fait que la plupart des usages numériques dépendent de technologies détenues par les entreprises américaines pose également la question de la maîtrise des outils. En cas de blocage volontaire ou non, le risque est de se trouver dans l'incapacité de faire fonctionner des services indispensables. Comment acheter des billets de train en ligne sans les services cloud d'Amazon, dont dépend la plateforme SNCF Connect depuis 2021. On ne va plus... C'est... Ah ? Il y a Number 19 qui me dit la carte bleue, la CB n'existe plus, rachetée par Visa en 2010. C'est vrai ça ? On ne va plus pouvoir prendre le train, les gars. Comment assurer la continuité des soins dans les hôpitaux en cas de paralysie des systèmes Microsoft qui équipent des centaines d'établissements de santé ? La domination américaine sur le marché du cloud soulève en outre de vives interrogations concernant l'utilisation des stockées données. De fait, les États-Unis ont adopté plusieurs textes législatifs dont la portée est dite extraterritoriale, qui autorisent leurs autorités à collecter des données sur des personnes ou entités stockées en dehors des États-Unis, mais hébergées par des sociétés dont le siège est domicilié outre-Atlantique. Ce corpus pose dès lors un problème de souveraineté des données. Wow. Pourtant, des alternatives existent, bien sûr. Ah, Sugar me dit, il y a confusion entre le groupement des cartes bancaires, CB, et le groupe carte bleue revendu à Visa. Merci, Sugar. Alors, vous avez été nombreux à l'évoquer. Il y a des alternatives qui existent. Que ce soit des technologies européennes opérées par des acteurs européens, OVH Cloud, ou Scaleway, ou les technologies américaines opérées par des acteurs non soumis à droit américain, à l'image de Bleu. Bleu, je ne connais pas. Moi, je pensais pour moi, c'est un fromage. Porté par Orange et Capgemini, qui permet de recourir aux services de Microsoft Azure dans le cadre d'un cloud sécurisé. Merci, Pounia, tu régales. La direction interministérielle du numérique, qui pilote la transformation numérique de l'État, tente aussi de montrer l'exemple en déployant sa propre suite bureautique et de messagerie, censée remplacer la suite Office de Microsoft et les applications Telegram et WhatsApp, jugées encore trop répandues dans l'administration. Reste aux entreprises et aux citoyens de lui emboîter le pas. Kioma est très sceptique. Il faut être délu pour croire que les alternatives européennes sont viables. Ça rigole. Plus de Twitch non plus, me dit artiste. Mais oui. Les alternatives ne sont pas au cœur, dit notre ami Toustibat. Il y a Xafaris qui rit jaune un petit peu, hein. Ah bon, choisir seulement les entreprises américaines alors qu'on a de bonnes entreprises en Europe, c'était pas une bonne idée, je tombe des nues. Croque-mou du genou, 2 points. Les managers top level sont biberonnés à la suite Microsoft. Je travaille dans un grand opérateur français, on nous a fait passer sous Office 365 alors que toutes les équipes tech ont dit que c'était nul et qu'on avait déjà nos outils en interne, mais on ne peut rien faire. Moi, je pose quand même la question, pour ces boîtes américaines qu'on évoque là, le marché européen est un marché énorme, qui rapporte énormément d'argent. J'ai beaucoup de mal à imaginer ces énormes boîtes américaines, dont le chiffre d'affaires est parfois semblable à celui du PIB d'un pays, obéir à Trump le doigt sur la petite couture du pantalon en disant « Oui, chef, on va bien s'asseoir sur nos bénéfices. » J'ai beaucoup de mal à croire à ça. Cyril, tu as raison, Samuel, elles sont bien plus puissantes que lui. Je ne sais pas, mais je me pose la question, quoi. Moi, c'est truc, c'est, dans l'article là, il y a un, qu'on vient d'évoquer sur ces questions-là, c'est moi, j'ai vraiment un truc qui je crois. Bah oui, Musk déjà, il va être fou. Hein. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Ok, un coup d'œil sur le chrono, 45 minutes, il nous reste 1, 2, 3 sujets. On est pas mal, on est pas mal. Je me fais un petit café pour relancer la machine. Est-ce que j'ai votre accord pour un petit café? Est-ce que je vous ramène quelque chose? Un petit coca? Oh non, c'est américain. Un petit pastis? Un petit pastaga? Un petit croissant? Un latte? Une envie de vivre? Je t'envoie de la force, Ophélie, Gabi. Une chocolatine? Un brescola? Bref. Un brescola, ouais. Bref. Je peux pas dire trop bien du brescola, mon épouse qui elle aime pas. Elle dit non. Elle dit non au brescola. Un coin trop, un petit coin trop, un ciao kombucha. Sors de ce live, Squeezie. Personne n'est dupe. Salut artiste. Artiste vient d'arriver dans cette communauté, c'est son premier message. Hein, il n'a jamais écrit avant. Artiste, voilà. Artiste, nous savons très bien quelle identité se cache derrière ce pseudo artiste hein, qui vient de dire « Ramène-moi un ciao kombucha, incroyable, jusqu'ici, jusqu'à cette chaîne, jusqu'à ce chat, Lucas, on t'a vu bien sûr, venir faire la pub ici, hein, de produits dérivés, ciao kombucha, incroyable, hein, toujours plus !» On est con, hein. Cherche un café, moi. Enfin, on est con, je suis con. Ah, j'ai lancé le café. Prends un déca, Sam. Je suis en forme ce matin, moi, je... En fait, moi, pour réagir, je crois que l'une des façons de me protéger contre le côté extrêmement anxiogène des informations, vous l'avez compris, c'est de faire le clown et de le faire de plus en plus. Alors, quand j'étais en télévision, je le faisais beaucoup, mais je le faisais beaucoup dans le cadre contraint de la télé. Et donc, j'aimais bien truffer mes journaux et mes émissions de petites blagounettes comme ça, mais dans un cadre contraint. Ici, je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne. Voilà, petite dictature ici, hein. Et donc, du coup, j'aime bien dire beaucoup de bêtises, déconner, voilà, parce qu'en fait, ça enlève un peu de ce côté extrêmement anxiogène. Alors, je mixe, vous l'avez compris, les informations, les pires qui nous viennent du monde entier et mes délires perso. Là, par exemple, image, illustration de la dictature, je vais chercher mon café. Voilà, je fais ce que je veux, moi. Il est libre, Max. Et certains l'ont même vu voler. Je reviens. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Excusez-moi, une belle chanson, ça. Alors, bientôt Samuel Etienne sur Radio Nova aux côtés de Guillaume Meurice ou de Hakim Omiri. Attends, Hakim Omiri, c'est lui que je vois les sketchs sur TikTok, là, qui est incroyable, là. Je regarde ça dans ma salle de bain le matin, je rigole. Je rigole, il est drôle. Non mais je veux pas. Tiens, TikTok, Squeezie, comme par hasard. Incroyable ça. C'est incroyable le pouvoir. Hein. Comment on fait pour chercher les trucs? Hakim Omiri. Ah, il est partout. Ah oui, c'est lui. Il est drôle. Il est très drôle. Ouais, je tombe sur les vidéos de lui sur TikTok. Très très drôle. J'aurai le temps. Là, je suis à la bourre, il me reste 40 minutes. Mais j'aurai le temps. On se regarderait quelques petits clips de cet humoriste-là. Alors, c'est très engagé, hein, c'est très éditorialiste, très engagé. Comme Radio Nova l'a toujours été, mais devenu encore plus ces derniers temps. Là, c'est très intéressant le virage de Radio Nova. Et ça suit parce que du coup, les audiences montent très très fort. Et si on a le temps, sans piquer le contenu, quoi, mais juste pour voir, on ira voir peut-être. J'aimerais bien aller voir quelques sketchs de cet humoriste. Voilà. Mais là, on n'aura pas le temps ce matin. Mais on le fera. Alors, sujet suivant, la criminalité, la lutte contre la cybercriminalité en France. Petit moyen, mais il y en a qui font ce qu'ils peuvent. Cybercriminalité, c'est un papier des Échos. Alors, je vous incite à le lire, je vais le lire en diagonale. Mais le papier est passionnant. Ces magistrats français qui ne lâchent rien. La France, mesdames et messieurs. À la tête de la section J3 du parquet de Paris. Salut, Elé Fanovic. Johanna Brousse, 40 ans, traque les cybercriminels et défie les géants de la tech. Malgré des moyens limités, son équipe tente d'envoyer un signal fort. La justice existe aussi dans le Far West numérique. Alors le début de l'article est un peu bizarre. On s'attendait à voir... Au début, j'étais un peu surpris. On s'attendait à voir une petite armée de geeks à lunettes scotchés à leurs ordinateurs. Ça juge, hein. Un peu comme dans une salle de jeu. Hein. On imaginait des magistrats sous l'eau, un brin défaitiste face à l'ampleur du chantier, ou même une rencontre avec de vieux briscards roulant des mécaniques pour tenir tête aux plus grandes fortunes mondiales. Et dans son bureau avec vue sur la capitale, au 25e étage du tribunal de Paris, c'est une jeune femme charmante, à l'allure presque juvénile, qui nous reçoit. Souvenir avenant, apparence sylphide et vêtements coordonnés, c'est elle qui fait trembler les pirates numériques. Je commence à lire l'article. Je dis, dis-nous, Roger, on y va doucement avec la dame, là. Et après, je vois que c'est une femme qui a écrit l'article. C'est Marina Alcaraz. Je lui dis, ok. Bon, moi, j'aurais pas commencé l'article sur... Donc, mais du coup, je suis allé voir qui c'est. Bon, le début, il est bizarre, le reste de l'article est génial. Après, on devient sérieux, quoi. À tout juste 40 ans, c'est juste que la journaliste s'attendait à voir des bons gros geeks, voilà, des gars, et finalement que c'était une femme. Élégante de surcroît. Mais en vrai, on s'en fout. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une femme qui l'écrit. Mais après, vous allez voir, l'article, il est vraiment cool. Ce qui frappe en premier lieu, c'est la détermination de cette équipe réduite de 6 magistrats. Ils sont pas beaucoup, hein. 3 assistants spécialisés et 4 greffiers et directeurs de greffe. Donc les gars, ils sont 6, 9 et 4. 13. Très fort au calcul. En 2017, quand j'ai intégré le parquet cyber, on n'était que 2. Fait remarquer Johanna Brousse, qui a tout appris sur le tas. J3, c'est le nom de la section contre la cybercriminalité qu'elle dirige, semble n'avoir peur de rien. Elle a par exemple ouvert une enquête à l'encontre de X, le réseau du chétan, après avoir reçu des signalements. Le réseau social est notamment suspecté d'avoir modifié ses algorithmes d'affichage de contenu à des fins d'ingérence étrangère. Ha ! Alors là, ça m'étonnerait, hein. Quoi, hein ? Alors là, X modifierait son algorithme pour des fins pas très simples. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup, hein. Ça, c'est un complot. Ouais, espèce de gaulle. Qui c'est celle-là? Quelle... Ah, toi, hein, m'étonnerais. Le réseau social. Plus récemment, des propos négationnistes de Grok. Oh, alors là. Non, vraiment. Son outil d'IA sont aussi dans l'œil de la justice. Faire venir un jour Elon Musk devant la justice française. Si cela s'avère nécessaire, on fera entendre des dirigeants comme n'importe quelle personne. J'aime bien cette dame. L'équipe de Johanna Brousse rappelle que personne n'est au-dessus de la justice. Elle utilise tout l'arsenal juridique à sa disposition, dont le DSA, Règlement européen sur les services numériques, sur lequel beaucoup avaient exprimé des doutes. C'est un vrai signal donné à tout le secteur qu'il y a des lois pour les géants de la tech, appuie Sébastien Garneau, fondateur de Cyber Task Force, groupement d'entreprises sur les sujets cyber. Déjà sont actifs de nombreuses arrestations médiatisées et des réseaux mis à terre. Fermeture du réseau Coco en 2024, considéré comme un repère de prédateurs sexuels. Enquête sur Sky ECC, avec un procès prévu devant les assises en 2026. Application pointée du doigt pour son utilisation par des trafiquants. Bap, 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 bap. Quand une plateforme est fermée, cela montre qu'il n'y a plus de zone de non-droit. Rappelle Johanna Brousse. Plus récemment, la section de lutte contre la cybercriminalité s'est saisie de la cyberattaque en décembre contre le ministère de l'Intérieur où des dizaines de fichiers ont été consultés, ou encore de celle contre les services numériques de la Poste pendant la période des fêtes. Je crois que c'était notamment la Russie qui était pointée du doigt. Hein. Oh oui, t'as raison, Redifleur de paix. Petite coquille, oui. Sur le repère de prédateurs, t'as raison. Fais voir, ils ont fait l'erreur. Oh oui, dis donc. Ah oui, repère, R-E-P-E, accent grave, R-E. Il y a une petite coquille. Plateforme Coco, dont on avait parlé dans le procès Pellico. Tu avais raison, Viaduc. Tu avais raison. Et les plateformes aux réseaux sociaux sont aussi surveillées de près. J3 travaille sur l'affaire Kik, marquée par la mort en direct d'un influenceur, Jean-Paul Manœuvre, ou encore TikTok. Le parquet de Paris a en effet ouvert une enquête préliminaire sur la plateforme chinoise à la suite d'un rapport parlementaire pointant notamment les effets psychologiques sur le jeune public et des vidéos de violence et de promotion du suicide. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est sans doute l'arrestation en plein cœur de l'été 2024 de Pavel Durov, le sulfureux patron de la messagerie Telegram. Jamais la justice française n'avait frappé aussi fort dans une telle affaire de modération contre un puissant dirigeant. Quelques semaines plus tard, Telegram revoit ses conditions générales, accepte de mieux coopérer avec la justice. Le parquet spécialisé dans la cyber acquiert ses lettres de noblesse, mais aussi des ennemis puissants. Les gars sont pas très nombreux. MMG, le service, là, il dépend du parquet de Paris, d'après ce que j'ai compris. Les gars sont pas très nombreux, mais ça y va quand même. Quelques succès donc, mais les magistrats sont bien conscients de cela. Il y a un monde entre ce qui arrive jusqu'à notre bureau et ce qui existe. Faisant référence notamment au dark web. L'équipe n'est pas assez nombreuse au regard de la menace. Au regard de la menace, 6 magistrats face à la cybercriminalité, dont on estime le coût au niveau français autour de 100 milliards. Non, c'est que dalle. Les mafias ont fait leur révolution numérique et les moyens n'ont pas suivi. Johanna et son équipe vont au bout de leurs convictions, mais les moyens manquent. Je trouve ça passionnant. Hein, salut 7Z. J'espère que c'est pas grave. Sur l'ordinateur de Johanna Bruce, les dossiers s'accumulent. 2437 affaires en cours en octobre. Et rien que pour sa compétence nationale, c'est nous qui choisissons les affaires en fonction de ce qu'on peut absorber, explique un membre de l'équipe. Souvent, on nous appelle en renfort dans la mesure où les investigations sont très techniques. Par exemple, là, au moment où la journaliste est allée voir ses magistrats, hein, l'équipe travaillait sur une cyberattaque à 43 millions d'euros contre une grande entreprise française. C'est intéressant. Les enquêtes sont rarement franco-françaises. On peut avoir jusqu'à 50 demandes d'entraide aux quatre coins du globe. Plus les attaques sont sophistiquées, plus il est compliqué de récolter des preuves, car les criminels se cachent derrière des VPN ou des hébergeurs qui leur assurent de ne pas coopérer avec la justice. Le but est de collecter le plus vite les données avant qu'elles ne soient supprimées, une course contre la montre. J3, c'est le nom de cette cellule, doit s'adapter en permanence alors que les acteurs malveillants eux-mêmes se professionnalisent et s'améliorent. Par exemple, la justice a pu mettre la main sur un trafic avec des IMSI catchers, I-M-S-I catchers, des machines normalement destinées à la police permettant d'obtenir des numéros de téléphone. On a réussi à extrader un ressortissant chinois soupçonné de vendre de tels appareils, se félicite la magistrate. Plusieurs personnes doivent encore être jugées. Dans une autre affaire, les criminels avaient réussi à imaginer un système pour refaire les clés numériques de voitures avec des vols un peu partout en France. Dans ce Far West numérique, les bandits ont de nombreux visages. Des mineurs qui ont l'impression de vivre dans un jeu vidéo, des États avec des techniques de plus en plus sophistiquées, des réseaux mafieux. La délinquance classique se digitalise, hein, et la cybercriminalité n'est pas l'apanage des hackers. On a vu des informaticiens être recrutés dans des prisons et même sur le Bon Coin avec une annonce d'embauche à 1 million d'euros, s'étrangle Johanna Bruce. L'essor de l'IA renforce ce phénomène. L'IA permet de démocratiser le savoir technique et de sophistiquer les escroqueries. Si l'équipe de J3 n'a vu qu'un petit nombre de cas de gros deepfakes, hein, on est bien conscient que cela va monter en puissance. La plus grosse crainte de Johanna Bruce, une cyberattaque provoquant des blessés et des morts. L'équipe s'est d'ailleurs formée avec le parquet antiterroriste pour anticiper divers scénarios. On doit être prêt à tout. C'est fou, hein. Je trouve cet article passionnant. Bon, le début de l'article est un peu bizarre.
Mais après, c'est vraiment intéressant.
Un million ou ça? Qui peut me recruter? Non, Master Symmetry, tu ne veux pas toucher à ces emplois. Non, non, non. Non, tu ne veux pas. Même un million, après, ça va mal se passer. Bogdan dit, mais comment une cyberattaque peut engendrer des morts alors que c'est informatique? Écoute, je suis pas un spécialiste, mais je sais pas, une cyberattaque contre un hôpital? Au pif? Mais, ou que, je sais pas, contre un réseau de signalisation routier ou ferroviaire? Au pif? Contre un aéroport ou une tour de contrôle? Au pif? Une centrale nucléaire? Au pif? Ouais, pas besoin d'être un spécialiste pour avoir des idées, hein. Moi, je suis un inventif. Hein. Pas mettre le SAM. Si ça se trouve, tout ça n'est qu'une couverture. Hein. Si ça se trouve, voilà. Je donne le change depuis 30 ans à la télé, en radio, et depuis 5 ans ici sur Twitch. Hein, et tout ça n'est qu'une couverture. Hein. Une jolie couverture brodée pour l'hiver, alors qu'en fait, derrière, le hacker, le pirate, le cybercriminel, le monstre tapi dans l'ombre, prêt à sauter sur ses proies. Le Dark Sam, exactement. Ah, non, c'est le papier passionnant, quoi. C'est quoi ton nom de hacker? Tu crois que je vais le dire? Tu m'as pris pour un perdreau de l'année, hein? PGT, on parle. Est-ce qu'on est sûr de connaître l'identité du créateur du Bitcoin? On ne sait pas vraiment qui a créé le Bitcoin, on n'est pas sûr. Et si il était sous vos yeux? Couverture. Qu'est-ce qu'on dit comme bêtise? Maintenant, vous savez pourquoi. Alors, oh là 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 là, la régalade, le sujet qui arrive là. On va parler d'un truc gravissime. Un mot qui n'aurait jamais dû exister. Une expression qui n'aurait jamais dû exister, le devoir conjugal. Alors, je vais vous demander beaucoup d'attention, mesdames et messieurs, parce que ça peut vite partir en sucette, ce sujet. Donc, lisons l'article, prenons le temps de comprendre de quoi il retourne, et après parlons. Le devoir conjugal, la fin du mythe, c'est un article dans le Parisien. Écoutez bien avant de vous enflammer, parce que je vous connais les loulous, moi. Une proposition de loi transpartisane est examinée au Parlement français pour abolir explicitement cette notion, bien qu'absente du code civil. Elle imprègne encore la jurisprudence. Il y a Grégo qui me dit, ça tombe bien, j'en ai marre de conjuguer. Non, non, c'est pas cette conjugaison-là. Non, non, non. Rien à voir. Ne cherchez pas la mention d'un quelconque devoir conjugal dans la loi française. Si vous cherchez dans la loi française, il n'y a rien qui mentionne qu'il y a un devoir conjugal. L'obligation d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint, quoi. Hein, son épouse. Il n'y a rien de tel dans la loi. Et pourtant, cette notion va être au cœur d'une proposition de loi transpartisane, hein, examinée aujourd'hui en commission des lois, avant d'être discutée éventuellement en séance publique mardi prochain à l'Assemblée. Alors, comment ça se fait qu'il y a une loi qui propose de, en gros, de supprimer la notion de devoir conjugal alors que ça n'est pas dans la loi? Explication. Objectif du texte porté par le député Paul Christophe Horizon et la députée Marie-Charlotte Garin, les écologistes, renvoyer définitivement aux abîmes d'un autre temps en faisant disparaître du droit civil toute ambiguïté qui pourrait être interprétée comme une obligation sexuelle entre époux. Une autre proposition de loi allant dans le même sens a aussi été déposée en mars 2025 par le groupe LFI. Car c'est un fait, refuser durablement de coucher avec son mari ou sa femme. Oui, Hister dit, mais attends, il y avait des jurisprudences qui défendaient le devoir conjugal sexuel? Oui. Car c'est un fait. Refuser durablement de coucher avec son mari ou sa femme constitue toujours aux yeux de certains juges français une violation grave des obligations du mariage. La jurisprudence a déduit du devoir de fidélité, article 212 du Code civil, puisque pour le coup il y a un devoir de fidélité, le devoir de relations sexuelles au sein du couple marié. L'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, vient également renforcer cette interprétation française. Une exégèse qui a valu à la France d'être condamnée même par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a tout juste un an, elle a ainsi donné raison à une Française, dont le mari avait obtenu le divorce au tort exclusif de l'épouse, au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis des années. Elle a perdu en justice divorce prononcé à ses torts exclusifs, hein, là il y a quelques années, hein, parce que elle n'avait plus de relations sexuelles avec son mari depuis plusieurs années. Donc divorce au tort exclusif de la femme. En France, là, dans les années 2020, je n'ai pas la date précise. Donc ça existe. Celle-ci a ainsi jugé que l'existence. Merci Barcollet. Merci Morgose avec AW. Celle-ci a ainsi jugé que l'existence même d'une obligation matrimoniale de relations intimes était contraire, donc ça c'est la justice européenne, à la liberté sexuelle, bah oui, et du droit de disposer de son corps, bah oui. Deux principes fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Attendez, j'essaie de ne pas vous casser les oreilles.
Abracadabrantesque. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà. Marie-Charlotte Garin, donc l'une des députées à l'origine de cette proposition de loi qui vise à supprimer toute, c'est au début de l'article, toute ambiguïté sur le sujet, hein, puisque c'est pas une loi, mais c'est une jurisprudence. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends des articles du Code civil et tu en déduis quelque chose, c'est ça. Hein. Marie-Charlotte Garin déplore que la condamnation de la France n'ait pas provoqué un électrochoc. Pour le coup, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu passer cette histoire. Nous avons laissé perdurer l'idée d'un devoir conjugal qui a légitimé des décisions injustes et profondément violentes. Avec cette proposition de loi, nous corrigeons enfin cette absurdité juridique et cette injustice humaine. Hein. Le mariage ne peut jamais être un passe-droit sur le corps de l'autre. Il était temps que la loi le dise clairement, d'autant que le viol conjugal est reconnu depuis le début des années 90. Avant le début des années 90, la notion de viol conjugal, de viol commis dans le cadre du couple, n'existait pas. Et oui, on vient de là, les amis. On vient de là. Le texte s'inscrit également dans le prolongement de la loi du 6 novembre 2025, parce qu'heureusement, il y a eu des progrès ces dernières années, qui a modifié la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en intégrant la notion de non-consentement comme l'élément central de ces infractions. La loi doit protéger, jamais contraindre, ça semble une évidence, mais on en est là. Le mariage n'autorise ni le silence, ni l'aveuglement, ni l'appropriation du corps de l'autre. Cette loi pose une borne claire dans le mariage, tout comme dans toute relation. Tout commence par le consentement. Voilà. Nous devons en finir avec les décisions du passé. Selon une étude de l'IFOP, datant de juillet 2025, 50... Alors, la réalité en France aujourd'hui dans le mariage. Selon une étude de l'IFOP, datant de juillet 2025, c'est l'été dernier, 57% des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie, contre 39% des hommes, et presque une femme sur quatre contre son gré. C'est une chose de bannir l'idée de devoir conjugal de la loi, mais il faut aussi que cela infuse dans les esprits. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Parce que, voilà, vous êtes 4000 ce matin, peut-être qu'il y a des gens dans le chat, là, je ne sais pas s'ils l'ont écrit, mais peut-être qu'ils l'ont pensé, qui ont dit, bah quand même, dans le cadre du mariage, hein, quand même, bah non, il hein, n'y a pas quand même. Bon, je ne l'ai pas vu écrit, mais... C'est une chose de bannir l'idée de devoir conjugal de la loi, il faut que ça infuse dans les esprits. Nous baignons dans une éducation qui nous explique que les hommes ont davantage de besoins sexuels que les femmes et qu'elles sont là pour les satisfaire. On entretient ce mythe du devoir conjugal, tranche la quinquagénaire. C'est Sylvia qui a été mariée pendant 18 ans à un homme qu'elle présente aujourd'hui comme son agresseur. Hein, On entretient ce mythe du devoir conjugal, tranche la cacagénaire. Alors oui, certaines se forcent pour répondre au rôle qu'on attend d'elles, pour faire plaisir à monsieur ou pour avoir la paix. Hein. « Je l'ai bien fait, moi », dit-elle. Sauf que la frontière entre un rapport consenti de mauvaise grâce et un viol est vite franchie. Oui, il y a un aspirateur à côté. Oui, avant j'avais un bébé dans l'appartement à côté, le jeune couple est parti. Voilà. Et maintenant, ils ont mis l'appartement, le studio à côté en travaux. Donc c'est les petites odeurs de solvant, de peinture, la perceuse, là c'est la spile. Mais c'est pas chez moi, hein. C'est mon studio de stream. Il faut que la Samuel Corp trouve vite ses nouveaux locaux. Ah, c'est terminé. Pour la portée éducative et sociale, les auteurs de la PPL souhaitent intégrer explicitement la notion de consentement, donc cette loi s'appelle la PPL, dans le premier article du mariage civil. Ah, ça c'est bien ça, écoutez. Pour la portée éducative et sociale, justement, les auteurs de la PPL souhaitent intégrer explicitement cette notion de consentement dans le premier article du mariage civil, lu par le maire au moment de l'échange des vœux, vous savez. Ces cérémonies qui rassemblent plusieurs générations de citoyens, c'est toujours des moments sympas, sont une opportunité précieuse. Vous savez, quand l'officier d'état civil, qui est parfois le maire, il célèbre le mariage à la mairie, il rappelle, tu sais, les articles du code civil qui correspondent au mariage, notamment sur l'éducation des enfants, sur tout ça. Eh bien, ce serait peut-être l'occasion, disent les députés à l'origine de cette proposition de loi, ben de faire lire au maire ou à l'officier d'état civil un passage là-dessus, quoi. Opportunité précieuse pour redire l'impérieuse nécessité de respecter l'intégrité et la volonté de l'autre. Ouais. Je vais poser la question de la fidélité au SMI, parce que je vois que certains la posent. Dans ce cas, le respect du consentement ne serait plus seulement un engagement mutuel entre deux individus, mais un acte public et symbolique également pris devant la société. Alors certains parlent. Au début de l'article, on a vu que dans le code civil actuellement, alors dans le code civil, dans la loi, il n'y a pas de devoir de conjugal, vous l'avez compris, mais par contre, il y a encore un devoir de fidélité. Et certains ont rebondi là-dessus, je trouve ça intéressant, sur mais pourquoi on ne supprime pas le devoir de fidélité dans le cadre du mariage ? Alors, l'article ne porte pas dessus, j'avoue, je ne me suis pas posé la question moi-même, voilà, mais c'est un débat dans le débat, mais qui n'est pas inintéressant. Je trouve ça bête d'opposer les deux. Ah, mais moi, je n'oppose pas les deux. Hein. Pour moi, c'est un autre débat. Mais il y a un article, l'article 212 du Code civil, qui parle d'un devoir de fidélité. Mais là, on parle d'un autre sujet. Je veux pas lier deux sujets. Pour moi, ils n'ont aucun lien. Et pourquoi on ne supprime pas le mariage ? Parce que les gens ont le droit de se marier, Cibourg. Et c'est parce que toi, t'as pas envie, faut pas en dégoûter les autres. Ici, on est assez libertaire ici. Un peu comme Musk, on est très Musk ici. Tu vois. Pourquoi on n'oblige pas les gens à se marier ? Pourquoi tu veux obliger les gens à pas se marier ? On fait ce qu'on veut. J'adore. La proposition de PGT. Ou rendre le devoir de fidélité optionnel. On choisit de le prendre ou pas en fonction de son couple. Moi, j'adorerais qu'à la mairie, l'officier d'état civil, devant toute la famille, demande aux époux, bon, au fait, au niveau de l'option de fidélité, vous prenez ou pas devant la grand-mère. Bernard ou Marie, ce qui serait top, c'est qu'il y en a un qui répond, ah bah oui, oui, et l'autre, non. Ah oui, ça, je prends ça. Ça, je prends. La question de la fidélité, écrit Paf le sang, ça aide à maintenir une cellule familiale stable au bénéfice des enfants, il faut la maintenir. Pourquoi se marier, demande Ludocane, s'il n'y a pas de devoir de fidélité ? Cotin dit, si on retire tous les devoirs, autant pas se marier en effet. Le problème, c'est surtout pourquoi c'est si dur de divorcer. C'est plus simple que ça n'a été quand même. Pourquoi on supprime pas les dragées des mariages? Ça, c'est une vraie question. Les couples en union libre existent, nous rappelle MMG. Je vous lis. Hein. Après, moi, ma réponse à ça, je me suis jamais trop interrogé là-dessus. C'est chacun fait ce qu'il veut, non? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop. Il y a Goodies qui dit techniquement on est infidèle uniquement quand on se fait prendre.
Ok, d'accord.
C'est un autre sujet, hein, c'est intéressant. Mais un jour, il faudra qu'on ait ce débat, mais moi, j'ai pas de billes là-dessus. Hein. Salut, Noctali. En tout cas, ok, sur le devoir conjugal, l'ego, si jamais vous croisez un gars un jour, regarde une fille, hein. Mais bizarrement, ça vient plutôt des garçons, qui essaie de défendre cette notion de devoir conjugal. Et oui, quand même, non, il faudra expliquer que non. Hein. Voilà. Et ça pourrait rentrer dans la loi. La fidélité est une notion relative. Il y a des gens qui sont fidèles en couchant avec d'autres, avec l'accord du conjoint ou conjointe. C'est quoi la fidélité pour vous ou pour la justice? À quel moment c'est de l'infidélité? En fait, on est sur un débat. Là, c'est plus un débat de légalité. Hein. On est sur un débat moral, là. Cinquante nuances de Grey. En tout cas, recentrons sur le devoir conjugal. Deux points, ouvrez les guillemets, citation de Sam. Ça n'existe pas. Point, fermez les guillemets, fin du débat. Let's go. C'est bien parce que personne ne l'a remis en cause, ça. Communauté de gouttes. Allez, il reste 15 minutes. Voilà. Et il reste un sujet. Et après, je me barre. J'ai un rendez-vous. Je regarde les derniers messages, les mails d'urgent. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des petites urgences? Ok. Ok. Bon, tout va bien. Il n'y a pas d'urgence ce matin. J'ai un jeune ingénieur qui est sorti d'une école d'informatique qui s'appelle Les Frais, où je suis allé il y a quelques mois pour, je crois, je sais pas, féliciter la nouvelle promotion. Et puis il m'a demandé un tout petit truc, de liker un truc, parce qu'il est en recherche d'emploi. Il dit que c'est pas facile. Il est, je crois, il est ingénieur en cybersécurité, justement. Et donc il m'a envoyé un petit message, il me dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas liker une publication que j'ai faite? Je suis en recherche d'emploi, c'est pas facile. Voilà. Et donc ça a pris deux secondes, j'ai cliqué, donc on a eu un petit échange là-dessus. Voilà, et puis je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit je suis désolé, je suis tout le temps un peu débordé, je réponds très peu aux mails, mais bon là j'ai fait un petit clic, ça m'a rien demandé. Et je lui souhaite le meilleur dans une recherche d'emploi parce que je sais que c'est compliqué. Et il me répond, bonjour monsieur Etienne, je me suis toujours demandé, mais où trouve-t-il toute cette énergie? Mais où va ce monde? Ah, j'adore. Alors, bon. Vivez ma vie, Samuel Etienne. Il parle de qui? Ben, il parle de moi. Hein. Le fameux streamer d'extrême droite, Samuel Etienne. Allez, let's go. Dernier sujet. Et d'extrême gauche aussi, parce que je suis multifacette. Je suis multipass. Dernier sujet. On a 10 minutes. ChatGPT, le nouveau docteur. En vrai, je vais l'expédier en 5 minutes parce que après, il faut que je le fasse le raid, que j'envoie les titres de cette revue de presse à Vincent qui gère le podcast. Donc, je vais vous expédier ça, mais c'est passionnant. C'est le dossier de la croix de, du Parisien en une ce matin. ChatGPT, le nouveau docteur. Des millions de Français interrogent désormais l'IA pour se soigner. Est-ce que c'est dangereux pour interrogation ? Nos experts décryptent les bienfaits et les risques. Il y a un petit édito qui a l'air pas mal. Patients augmentés vraiment pour interrogation. L'intelligence artificielle a déboulé dans le secteur de la santé comme un éléphant dans un jeu de quilles. Pour le meilleur et pour une fois, pas pour le pire. On manque tellement de praticiens. Ah ah ! En chair et en os, que la fameuse menace sur l'emploi qui accompagne souvent l'IA ici n'inquiète pas grand monde. Ah oui, vous êtes très nombreux à témoigner régulièrement de la difficulté à prendre rendez-vous chez un généraliste ou un spécialiste. Qui osera reprocher à un patient sans médecin traitant d'aller poser quelques questions, les mêmes adressées jusqu'ici à Google ou sur les forums Doctissimo à ChatGPT. Il faut saluer cette démocratisation de la médecine. Mais soyons clairs, l'IA défriche, conseille, suggère, mais l'IA n'examine pas, eh oui, ne diagnostique pas, ne prescrit pas, ne soigne pas. Le soin n'est pas une formule mathématique, c'est de la patte humaine. Le médecin n'est pas un puits de science qui joue avec des probabilités, c'est un regard. La consultation démarre avant même que vous ayez prononcé le moindre mot. C'est une écoute, il a souvent deviné ce qui vous amenait avant de vous examiner. C'est un geste précis, c'est une réflexion déductive mais aussi intuitive, c'est très bien écrit. L'IA n'aura ni la finesse de deviner que vous taisez un symptôme par pudeur, ni l'intuition d'aller chercher un antécédent familial qui pourrait complètement changer la donne. Bref, ne faisons pas l'erreur de penser que l'IA peut se substituer au médecin ou au prétexte que l'utilise aussi. Ils s'en servent comme d'un assistant dont ils connaissent les limites, nous comme d'un oracle. Le médecin augmenté, oui. Le patient augmenté, non. C'est pas mal. On a lu récemment dans la presse un article ensemble sur une IA générative, mais réservée aux médecins. C'est français, mesdames et messieurs. Mais une IA générative qui se nourrit uniquement auprès de certaines sources qui sont des sources médicales, scientifiques, vérifiées, carrées, voilà. Et donc c'est vendu avec un abonnement aux médecins français généralistes. Ils sont en train de s'équiper, certains, parce qu'ils disent que l'outil est vraiment pas mal fait. Mais ce n'est qu'un outil, c'est pas l'IA générative, même spécialisée, qui établit le diagnostic, bien sûr, quoi. Donc c'est la question qui est portée par... j'ai des témoignages dans le chat qui sont très intéressants. Blachmer, ma compagne et moi, ma compagne a été mal diagnostiquée pendant des mois. L'IA nous a donné les bonnes pistes, ça nous a permis de lui sauver la vie. Ketzak, perso, j'utilise pour déchiffrer les résultats de mes IRM sans devoir attendre 2 mois pour voir si le médecin qui va me dire pareil. Gros problème que j'ai constaté avec l'IA, dit Paf le sang, elle ne sait pas dire je ne sais pas, elle va préférer broder un truc incompréhensible, voire dire des bêtises dans un cadre médical, ça peut être évidemment catastrophique. Intéressant. Est-ce que j'ai le temps de lire tout cet article ? Oh, il me reste une minute. Peut-être cette interview. Bon, pardon, je ne vais pas lire tout le dossier, mais je pense que cette interview d'Alexandre Bios-Duplan, qui est chef de projet à la Autorité de Santé, est assez éclairante. Il dit que c'est un outil de débroussaillage intéressant. Mal au ventre, taches rouges sur la peau, des frissons pour nombre de Français, ChatGPT est devenu un assistant médical au quotidien. Vous en témoignez dans le chat actuellement. Mais attention, cette pratique n'est pas sans risque, prévient la Haute Autorité de Santé. Elle prévoit de publier en mars, d'ailleurs, une fiche de bonne intelligence des outils d'IA. Son chef de projet nous en dit plus. Comment expliquez-vous qu'autant de Français utilisent ChatGPT aujourd'hui pour leur santé ? Réponse d'Alexandre Bios-Duplan, c'est tout simplement lié à la facilité d'accès à ce genre d'outils. Là où l'information médicale était il y a une vingtaine d'années strictement détenue par les professionnels de santé, elle est désormais accessible à tous. Et c'est formidable, dit-il. Cela change la nature du dialogue patient-soignant et il faut se réjouir, dit-il, de cette démocratisation de la science et de la médecine. Comprenez-vous les médecins qui s'en agacent ? Le débat d'aujourd'hui a déjà eu lieu il y a 15 ans avec Google et les moteurs de recherche. Les médecins se plaignaient que leurs patients arrivaient en disant qu'ils avaient vu telle ou telle chose sur Internet. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau, mais il est amplifié par l'IA. Et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Mais l'IA peut-elle remplacer ou peut-elle finir un jour par remplacer le médecin ? Merci Yann. Merci Marcoulet. Réponse du monsieur. S'il s'avère au fil du temps que de nombreux pseudo-diagnostics par l'IA sont confirmés par des examens médicaux et que l'IA est assez fiable dans l'ensemble, cela pourrait induire un changement des pratiques. Aujourd'hui, pour des cas très simples liés à la bobologie, le médecin ne semble plus forcément indispensable, mais pour des cas complexes, c'est autre chose. Et l'IA ne peut pas remplacer un praticien, ne serait-ce que parce qu'il faut souvent des médicaments et donc une prescription médicale. Et que contrairement à ce que certains souhaitaient dans le chat tout à l'heure en rigolant, l'IA aujourd'hui ne peut pas prescrire des médicaments. Et tant mieux. Mais il dit, je dirais que l'IA est un excellent outil de débroussaillage. Quels sont les principaux risques que vous identifiez ? Le premier des dangers, c'est de présenter une situation médicale à l'IA donc, en occultant des paramètres. Un patient peut dire qu'il a un symptôme bénin tel qu'il est présenté, mais en oubliant de préciser qu'il a aussi une pathologie chronique ou un facteur de risque. C'est quand le prompt est mauvais en fait, quand tu fais un mauvais prompt. Il y a un risque d'autocensure pour ne pas raconter quelque chose comme une ancienne infection sexuellement transmissible par pudeur ou par prudence, alors que ça pourrait avoir une influence sur le diagnostic. Alors, notre Giant Screen me dit, en cas de doute, c'est un lupus. Sans parler du risque de faire une confiance aveugle à l'IA. Oui, et deux facteurs y contribuent, la haute précision, la haute technicité des réponses, volontiers associée à une infaillibilité de la machine, et le ton amical de l'IA, hein, qui vous tutoie, vous parle comme à un proche. Mais elle peut se tromper, l'IA. Nous mettons tous en garde contre un usage potentiellement dangereux de l'IA qui remplacerait un véritable diagnostic médical. Quel conseil trouvera-t-on dans la fiche que vous allez publier ? Il faut surtout parler d'un problème de façon exhaustive, sans rien occulter. Je conseille aussi de formuler plusieurs fois la question de façon différente quand vous interrogez une IA sur le sujet. Si la réponse apportée varie, c'est qu'il est préférable d'aller voir un médecin. Par ailleurs, s'il est difficile de discuter avec l'IA sans lui fournir des données médicales personnelles, il faut les anonymiser. Concrètement, si un patient décide de transmettre un bilan sanguin à l'IA, il faut effacer son nom, sa date de naissance, son numéro d'assurance maladie. Êtes-vous inquiet de l'arrivée d'un nouvel outil ChatGPT Santé ? Alors ça, je ne savais pas. Bien sûr que le médecin peut se tromper aussi, bien sûr. ChatGPT Santé aux États-Unis et peut-être un jour en France. Je pense qu'il n'y a pas de parallèle à établir entre ce qui se passe aux States et en France. La situation n'est pas la même dans un pays où les soins coûtent cher et chez nous où ils sont pris en charge. Un tel outil peut attirer un certain nombre de Français. Je pense qu'il n'aura pas la même place qu'outre-Atlantique. Voilà. C'est intéressant, hein ? Un outil. Voilà. Moi, encore une fois, j'ai été séduit par... je crois qu'on en a parlé peut-être dans le journal des Bonnes Nouvelles le samedi dernier ou le samedi d'avant. D'une IA générative française, développée par des Français, destinée aux médecins généralistes, voilà, sur la base d'un abonnement, et des IA génératives qui se nourrissent, non pas de n'importe quoi sur Internet, mais de contenus médicaux et scientifiques vérifiés et rigoureux. Et une IA générative que les médecins peuvent interroger pour aider à leur diagnostic. C'est pas mal. J'aimerais beaucoup que tous les médecins utilisent l'IA pour augmenter leurs compétences diagnostiques en utilisant comme un outil comme il se doit. Dit Blachmer, c'est exactement ça. Voilà, j'en ai parlé il y a 15 jours. Hugo dans le chat nous dit « Je suis médecin généraliste, salut Hugo. » Et franchement, ChatGPT peut répondre juste, mais c'est aléatoire. Car la source vient d'Internet et il y a tout et n'importe quoi. Je trouve que la réponse est très intéressante. Vous êtes une communauté de goths, hein. Zudrak, qui utilise un mot que je ne connais pas, qui est anamnèse, et qui m'impressionne beaucoup. Le problème d'utiliser l'IA pour être diagnostiqué est qu'une IA ne peut réaliser une anamnèse complète de bonne qualité. Vous allez écrire les symptômes que vous pensez pertinents, mais rien que la manière dont vous vous exprimez et vous voir en personne peut donner des indices sur votre état de santé. Voilà. Encore faut-il savoir bien décrire ces symptômes. C'est vachement intéressant, hein ? Voilà. Vous avez un gros dossier dans le Parisien sur le sujet. Et je vous abandonne comme une vieille paire de chaussettes. C'est la fin de cette revue de presse de ces matinées. Etienne, c'est tous les jours. Hein. Il y a quelques mois, vous m'avez dit, Samuel Etienne, c'est bien le gaming, mais la revue de presse, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, on est passé de le plus souvent possible à tous les jours. Bon, en fait, mon désengagement de la télévision a beaucoup aidé. Mais depuis juin, la revue de presse, la matinée Etienne, c'est tous les matins. C'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est le vendredi. Je ne prends aucun rendez-vous, je ne prends aucun Teams le matin. C'est full revue de presse. Voilà. Et les très rares fois ces dernières semaines où ce n'était pas possible, je l'ai fait l'après-midi ou le soir pour compenser. Donc, c'est tous les jours et c'est le matin. Et c'est en live sur Twitch, et c'est en replay sur YouTube, et c'est en podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast. C'est la régalade. Et je vous retrouve demain, bien sûr. Demain, on sera jeudi, et ce sera vendredi aussi. Et samedi, il y a une revue de presse des bonnes nouvelles, où j'essaie de compiler des bonnes nouvelles pour vous monter un petit peu le moral. Sauf que j'en ai pas trop pour l'instant. J'en ai une ou deux de mardi, hier et aujourd'hui. J'en ai pas trop trouvé. Mais je vais en chercher. Des bisous, des poutous, et je vous dis à demain. Peut-être à soir, mais en ce moment, je fais pas trop de gaming. Et je m'en excuse parce que je bosse sur plein de trucs. Voilà, plein de projets, plein de machins. Ça me prend du temps de fou. Et le soir, je suis sur mon ordi, mais pas pour mettre des têtes. Quoique, j'en mets pas beaucoup. Mais plutôt pour bosser sur des trucs. Donc, je vous oublie pas, j'y pense très fort. Donc, je vais essayer ce soir, par exemple, mais sans promettre, sans rien promettre de définitif. J'aimerais beaucoup être ce soir avec vous en stream. Mais je vais faire le maximum. Mais sinon, au plus tard demain matin pour la revue de presse. Qui est en live? On fait un raid. Vous êtes vachement... Et merci d'être aussi nombreux. Hein. En vrai, ça fait plaisir. Hein. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Ah! Tiens, je sais chez qui on peut aller, moi. Ah! Il est en live, mais sa chaise est vide. Oh, il a un beau studio, Sakor. Putain, il a un studio de fou, Sakor. Il revient ou pas? Ah, je le vois. Sakor, on se parle pour qu'il vienne bientôt dans Samplay. Voilà. Je vous rappelle à propos de Samplay, le prochain Samplay, c'est dimanche prochain, il est fou. Il est là, regardez la belle affiche. Farming Simulator. Voilà. C'est pas fait par IA, c'est fait par Léa. Qui est la graphiste qui fait les visuels de Samplay pour moi. Et on a Bruno Universimu, un grand simulateur, un spécialiste de la simulation, qui sera avec nous dimanche dans Samplay, l'émission où je découvre chaque dimanche soir un nouveau jeu vidéo, voilà, pour Farming Simulator. Voilà. Léa, plus forte que l'IA, exactement. Ça, c'est dimanche, et tout de suite, c'est Sakor, avec qui on parle depuis un moment pour qu'il vienne dans Samplay. On a juste une date à se caler. Voilà. Et ça me fera trop plaisir. Sakor, il est sur Minecraft, j'ai l'impression, là. Il est sur Minecraft. Ok. Des bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à demain matin, au plus tard, et peut-être avant. Je lance le raid. À très vite, prenez soin de vous.